Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Europe à Valence. Il faisait chaud ce week-end. Chaud dans l'air, chaud dans l'eau, chaud dans le bitume. Et malheureusement, on aurait bien aimé une course aussi torride. Pour m'accompagner, comme d'habitude, on l'aime tous, même Lotus Renault. Bonjour Dino. C'est oui. Juste tout est Twitter maintenant.
Je sais pas ce qu'il en prend chez Lotus Renault, mais il me prend des déclarations d'amour. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'ils avaient bu ce week-end, donc pas de problème. Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Et donc cette semaine, nous avons un invité qui a dont le pseudonyme, j'ai envie de dire, respire le bon goût. Un surnom qui nous fait rêver aujourd'hui, hein, puisqu'il fait 35 degrés. Messieurs, son Iceman Air.
Bonjour.
Bonjour Iceman Air.
Bonjour tout le monde.
Que nous avons déjà reçu, je crois, dans l'émission jeu du début de saison.
C'est ça, ouais.
Et t'avais perdu, je crois.
Ouais. Enfin, j'avais pas gagné.
Ouais, t'avais perdu, quoi.
Je suis pas tout seul à avoir perdu.
Ouais, voilà.
Non, je suis obligé de vous poser la question. Qu'avez-vous pensé de cette course?
Bah, chiante, hein, globalement.
J'ai pas vraiment envie de dire chiante, j'ai envie de dire c'est une course normale.
C'est ça, en fait.
Ouais, y a pas eu de différence de stratégie, y a pas eu de rôle réel du DRS, et bon, je suis un peu spoilé sur mon proverbe, mais j'ai cherché un proverbe autour du thème de l'ennui, et souvent ça revient dans les réflexions sur l'ennui, c'est que ce dont on s'ennuie, c'est de la normalité, finalement. Là, on a une course de Formule 1 assez normale.
On a fini par oublier qu'une course de F1, ça pouvait aussi être ça.
Ouais.
Mais en fait, le truc, c'est que là, cette année, en fait, par rapport à ce qu'on avait été habitué à voir, on se dit c'est chiant, mais je pense que si on aurait eu cette course-là l'année dernière à Valence, on aurait dit putain, belle course, quoi. Par rapport à ce qu'on a eu sur les autres années, quand même, il y a eu des dépassements à Valence, avant, on n'en voyait pas souvent.
Oui.
Même si, c'est vrai qu'en fait, c'est par rapport au dernier Grand Prix où, effectivement, comme il n'y en a pas eu beaucoup, on a tendance à croire que la course est chiante,
Mais c'est vrai que on s'est un petit peu habitué, c'est un peu nos habitudes aussi, on s'est un petit peu habitué à ce qu'il y ait beaucoup d'action, et quand on retrouve une course finalement digne de la saison 2010, on s'ennuie.
Surtout quand on sort de la course qu'on a eu au Canada.
Oui, voilà. Ouais. Voilà, faut être philosophe, faut se dire forcément sur 19 courses, hein, on peut pas avoir 19 courses géniales.
Surtout quand t'as Valence au calendrier, quoi.
T'es sûr.
J'ai envie de dire passons à l'éphéméride, à moins que vous ayez des choses à rajouter.
Écoute, là j'ai rien à dire sur le DRS, donc.
Pas encore. Allez, passons à l'éphéméride.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite. elle fait. C'est un jeu de mots. C'est pas drôle en fait.
Donc nous étions le 26 juin, ce dimanche, et faut dire que en termes d'événements, c'est un peu comme le Grand Prix de Valence. Hein. C'est pas chiant, mais il y a pas grand-chose, on va dire. Mais on peut noter le 26 juin 1945, l'adoption de la Charte des Nations Unies, tu vois.
Oui.
Et le 26 juin 1963, le fameux discours de John Kennedy à Berlin, « Ich bin ein Berliner », que l'on peut traduire par « Je suis un Berlinois », mais aussi par « Je suis un petit pain ». Il faut rappeler qu'un Berliner, c'est un petit pain de Berlin.
Il a fallu qu'il fasse son discours en français, quand il aurait dit « Je suis un croissant », on aurait su.
Voilà. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a pas grand-chose, je vais tout de suite passer aux naissances du 26 juin, parce qu'il y a plus de choses, on va dire. Puisque le 26 juin 1942 naissait Gilberto Gil, le chanteur brésilien, et aussi ministre, je crois, de la culture. D'ailleurs, il a même continué à chanter en étant ministre. C'était cool. Vous imaginez les ministres chanter, faire des concerts. Au Brésil, c'est possible. Le 26 juin 1961, c'était un sportif, Greg LeMond, qui naissait, donc qui a gagné deux fois, si je me trompe pas, ou trois fois, le Tour de France.
Moi, je dirais trois.
J'ai un doute entre deux et trois. Je crois que c'est trois, ouais. Dont la fameuse année où il a gagné pour 8 secondes. À noter le 26 juin 1963, la naissance de Richard Garfield, qui n'a rien à voir avec le chat.
Ça nous rassure.
Mais qui est créateur de jeux. Et qui notamment a créé le fameux jeu Magic l'Assemblée.
Magic l'Assemblée, c'est un jeu ça?
Oui, un jeu de cartes.
Ah oui, d'accord.
Le jeu de cartes Magic l'Assemblée, il y a bien quelqu'un qui l'a créé, c'est Richard Garfield.
Ah, je comprends avec Magic System.
Non, il n'a pas créé Magic System. Et je ne suis pas sûr que Magic System joue aux cartes Magic. Quoique, on ne sait pas.
Ah, ça sera drôle.
en 1964, c'est un autre sportif qui naissait, c'était Tommi Mäkinen, le fameux pilote de rallye finlandais. Alors lui, il a gagné combien des titres sur ses Mitsubishi Lancer?
Des 4 consécutifs, je crois.
Ouais. Ah ouais, quelque chose parce que 93 à 97, je crois.
Ouais, quelque chose comme ça, parce que c'était le précédent record avant l'Aube.
Avant l'Aube.
Il y a eu lui, je crois qu'il y a Kankunen qui en avait 4 aussi. Je sais plus qui d'autre.
Il y a Sainz qui avait record de victoire, mais je crois qu'il avait Sainz, je crois qu'il a que
ouais mais je crois qu'il en avait que
titre,
deux.
Ouais. À noter en 1966, c'était la naissance de Danny Boone.
Ouais, pilote.
Voilà, il l'a fait, c'est bon.
Non mais c'est terrible pour ce mec comme ça. Il a quand même fait des trucs vachement mieux que ça et on va toujours en citer Biloute quand on va faire des trucs horribles.
Encore un autre sportif en 1968.
C'est vrai que Danny Boone était sportif, il faisait du vélo.
Bah non, mais Mäkinen et Lemond sont des sportifs.
Oui.
Il y a beaucoup de sportifs cette semaine. C'est un footballeur italien, c'est Paolo Maldini.
Ah ouais.
Joueur qui est resté 15 ans, quoi.
Pour dire, je crois qu'il a commencé au Milan, à la grande époque du Milan, à la fin des années 80.
Ah oui, il a commencé à la fin des années 80. Et il a dû finir il y a 3-4 ans, pas plus. Il est resté une bonne quinzaine d'années. En 1971, on est toujours en Italie, mais c'est plus un footballeur, c'est un pilote de moto. C'est Max Biaggi, champion du monde MotoGP et de Superbike, puisque maintenant il fait du Superbike.
Il a été champion du monde MotoGP?
Ah, non, je crois pas.
Il a été en 250, ouais. 4 titres 250 entre 94 et 97 quand même.
Ouais.
Pas mal.
C'est pas un manchot.
Superbike en 2010.
Enfin, en même temps, tu me diras, quand un mec fait 4 titres en 250, c'est qu'il est pas monté rapidement en catégorie supérieure. C'est, voilà, les mecs qui sont 4 fois champions au GP2, c'est parce qu'ils sont pas ici au moins une fois.
Sinon, en 1987, c'était la naissance de Samir Nasri, le footballeur qui joue à Arsenal, je crois. Il continue à Arsenal l'an prochain, je crois.
Je m'aventurerai pas, mais je crois qu'il est sur les feuilles de Barcelone qui voudrait l'avoir. Oui. Mais pour le moment, il est à Arsenal. Mais ça pourrait changer d'ici la fin du mercato.
Ah bah oui, c'est que le début. Ils nous ont quittés un 26 juin. En 1541, Francisco Pizarro, le conquistador espagnol. Alors je l'ai mis lui parce que je me suis dit, là il y a plein de sportifs et tout, faut quand même que je vous sorte un truc que personne ne connaît. Parce que sinon, ça serait plus vraiment l'éphéméride.
Ouais, un peu de culture quand même.
Voilà. Donc il a conquis les... entre guillemets, découvert l'Amérique du Sud pour l'Espagne. Donc forcément, il a tué plein d'Indiens. Rappelons. Et plus proche de nous, c'était un footballeur. C'était lors de la Coupe des Confédérations en 2003. C'était en France d'ailleurs. Lors de la demi-finale, si je me souviens bien, du Cameroun contre je sais plus quelle équipe. Le 26 juin, il y a deux journées internationales. La journée internationale contre la torture et la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Donc si tu fais de la torture et que tu vends de la drogue, ben ce n'est pas ta journée. Sinon, en Thaïlande, c'est la fête de Sun Ton Phu, un poète. Me demandez pas qui c'est. C'est un poète.
C'est poète. Même moi, j'en ai honte de celle-là.
Ah, y a de quoi.
Oui, non, mais je suis d'accord.
Et donc, en F1, ce jour-là, alors on peut rappeler que le 26 juin 1906, ce fut le premier Grand Prix. Au Mans, en France, premier Grand Prix de France.
Remporté par
Tu sais même pas toi-même, je suis sûr.
Oui, non, moi je le sais.
C'est Ferenc 6.
Ouais, un Hongrois.
Alors, il y avait 6 tours, le 26 et 6 le 27.
Bon, vous pourrez d'ailleurs découvrir la biographie dans le guide du SAV, dont nous vous rappelons qu'il est toujours en vente pour 15,99€ chez The Book Edition. Et vous retrouverez quelque part le lien sur le site du SAV, www.savf1.fr.
Il a gagné avec 32 minutes d'avance. Même si je fais pas ça aujourd'hui.
Même moment, ils font pas ça en ce moment.
Oui.
Alors notez que le 26 juin, c'était le premier Grand Prix qui avait lieu un 26 juin, ce dimanche. Oh, voilà. Et sinon,
on va s'en rappeler, tu sais.
Il y a eu un record, on va dire.
Bon. Ah ouais.
Sinon, on peut noter que le 26 juin, c'est la naissance d'un pilote français. J'ai envie un peu quand même d'en parler. C'est Philippe Streff.
Ah.
Pilote
oui.
Français, donc qui a fait sa carrière entre 84 et je vais dire entre guillemets 88. Ceux qui ne connaîtraient pas son histoire, vous allez vite comprendre. Donc il commence en 84 par une pige en faisant en ayant la troisième voiture chez Renault, puis il fera une pige chez Ligier. En fait, sa carrière va vraiment commencer, c'est en 86 où il va aller chez Tyrrell et il va faire un podium. Donc à Adélaïde en 85 sur une Ligier en fait, mais il a pas fait beaucoup de courses sur la Ligier, je me demande s'il n'en a pas fait qu'une seule. Et donc en 87, il part chez AGS, écurie française, qu'il a connue en F3000. Mais en fait, l'histoire de Philippe Streff, entre guillemets, se termine et commence en 88. Donc c'est lors des essais, c'est le premier Grand Prix de la saison à Jacarepaguá. Et lors des essais, Philippe Streff a un terrible accident. Et on parle souvent de la qualité des commissaires, et il faut bien voir que cette année-là, les commissaires brésiliens, c'était pas le top. Hein. Faut savoir qu'en fait, il aura eu les cervicales broyées en fait lors de l'accident. Et alors qu'il est connu quand même que lorsqu'il y a un accident, même de la route, il faut faire extrêmement attention. Ils vont s'y prendre comme des malpropres, hein. Et faut le dire, Philippe Streff va finir paraplégique. Ce qui paradoxalement va amener, c'est un peu toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il faut attendre l'accident pour que les choses bougent. Malheureusement, c'est l'accident de Streff, en partie, il y aura d'autres choses aussi après, qui vont pousser. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a des centres médicaux, pas dire de base, hein, parce qu'il y a des choses quand même pas mal en cas d'accident.
On peut y opérer un pilote.
Il y a, je crois, c'est un ou deux zones d'atterrissage d'héliport pour au cas où, hein, si jamais il faut l'amener dans un hôpital plus proche. Donc voilà, malheureusement, Philippe Streff, on a beaucoup parlé d'accidents mortels ces dernières semaines. Lui, bon, il a survécu, mais voilà, il sera marqué dans sa chair à vie. Et faut noter un peu d'ailleurs le travail qu'il a fait après. Alors, bien évidemment, il a plus fait de sport auto après, vous en doutez. Il a beaucoup travaillé au sein d'associations pour permettre justement à des handicapés moteurs, notamment de passer le permis, d'avoir des véhicules pour qu'ils puissent se déplacer. Notamment, je crois que c'est Renault avec des espaces aménagés pour permettre, voilà, des gens même avec fauteuil de pouvoir se déplacer par automobile. Et à noter, dans un côté plus sportif, que Philippe Streff est à l'origine d'une course qui avait disparu. C'est le Elf Kart Masters de Bercy,
ah,
qui a existé donc alors entre 93 et 2002. Alors surtout les premières années, elle réunissait donc des talents du karting et aussi, comme c'était en fin de saison, des grands noms de la F1.
On se rappelle de Senna, je crois.
Senna, ouais.
Et ben d'ailleurs, on peut dire que historiquement, la dernière opposition entre Prost et Senna, elle a eu lieu lors des premiers Mastercard, je crois que c'était ceux de 93. J'ai même lu comme anecdote, alors que bon, c'est de la course de gala, on est bien d'accord, hein, c'est un peu comme ce qu'on a maintenant.
Ah non, faut jamais dire ça à Senna, c'est pas la
mais
course
voilà.
de gala.
Et faut voir que, comme c'est en France, les cartes qui étaient utilisées étaient des cartes françaises, uniquement vendues en France. Et en effet, t'as raison de faire la remarque, puisqu'il paraît, et c'est sans doute vrai, que Senna, il a demandé exprès à ce qu'on importe un kart français au Brésil pour qu'il puisse s'entraîner. Je vous rassure, visiblement, Alain Prost a fait la même chose. paradoxalement, j'ai essayé de trouver un peu les résultats j'ai pas réussi à trouver, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est un événement qui est un petit peu ancien. Je peux quand même vous dire que lors des dernières éditions, alors par contre c'est vrai que sur la fin il y avait moins de stars de la F1, parce que c'est vrai que c'est une époque où on lâchait moins les pilotes qu'aujourd'hui, on revient un peu en arrière justement grâce à des choses comme la course des champions. Juste vous dire que donc lors des deux dernières éditions en 2001 et 2002, eh bien les deux jeunes qui ont gagné sont des pilotes qui n'ont pas du tout fait carrière, hein, puisque ce sont des petits gars qui s'appelaient Lewis Hamilton et Sébastien Vettel.
Qui ça, je connais pas.
Il y en a un, le nom me dit quelque chose. Il a pas fait du vélo.
Il y en a un qui est noir, non?
Non, il n'est pas noir. C'est une légende urbaine.
Non, c'est vrai, Vettel n'est pas noir.
C'est vrai.
Ah mince, pardon.
Et donc c'est vrai que la course n'avait plus lieu depuis 2002. Cette année, en 2011, alors c'est plus les EDF, c'est les ERDF.
Ouais.
Les ERDF Kart Masters vont avoir de nouveaux lieux à Bercy. Comme c'est EDF qui sponsor, et j'ai envie de dire, il est tout à fait normal qu'on va trouver des cartes électriques. Bien évidemment. Alors, ils vont essayer, juste un peu comme vraiment les premières années, d'attirer des grands pilotes, en plus de gens vraiment émérites du karting. Alors, j'ai entendu dire que peut-être il y aurait Kimi Raikkonen. C'est un nom comme ça.
Ça serait chouette.
Ça serait chouette. Après, bon, il n'y a pas encore eu d'autres noms, mais c'est vrai qu'on est que cet été. Alors, la course aura lieu au mois de décembre. Je crois que ça sera une semaine après la course des champions. Donc, les deux événements ne vont pas se chevaucher au cas où, hein. Mais cette année, voilà, il va y avoir le grand retour des Kart Masters de Bercy. Donc, voilà, c'était pour saluer un pilote, voilà, qui n'a pas été un grand nom de la F1, mais il faut dire qu'il n'a pas vraiment eu le temps, mais qui a quand même fait des grandes choses. Alors Dino, on va passer à l'actu ?
Oui, avec le podium de l'actu, ce podium inédit qui a toujours 5 places.
C'est ce que j'allais te poser comme question.
Mais je crois que maintenant, c'est-à-dire que je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai totalement perdu la notion de ce qu'était un podium. C'est peut-être le début de saison de Ferrari aussi qui vaut ça.
Non, mais c'est ton podium, tu penses en top 5 maintenant.
Oui, voilà. C'est le top 5 de l'actu, oui, c'est parce que...
Pourtant, le podium, on en a entendu parler à Monaco, hein.
Ouais. Mais là, le podium, il aurait pu exister tout seul, mais je me suis dit, comme Valence, la course, on va peut-être pas non plus en parler pendant 3 heures. J'ai prévu le coup. Je me suis dit, on va bien trouver 5 actu. Et il y a une petite thématique. Ah, voilà. Généralement, c'est la thématique Ferrari. Eh ben, cette semaine, ce sera la thématique McLaren.
Oh.
Mais comme il y a toute exception à toute règle, on va commencer par Ferrari quand même. Puisque le 5e article le plus lu, c'est l'article qui s'intitulait « La FIA favoriserait Ferrari selon Helmut Marko ». Helmut Marko qui insinuait que la nouvelle réglementation à partir de Silverstone sur les diffuseurs soufflés aurait été faite sciemment à l'intention de Ferrari, en fait.
Bon, enfin Marko en même temps...
La demande vient pas de pas, il... en plus, donc...
Mais moi, en plus, moi, je me dis, Marco, il est un peu louche.
Ouais, voilà.
Comme dirait le mot de Marco, je vois clair dans ton jeu.
Ah. Oh. Non, mais c'est vrai que, mais c'est bizarre parce que, je crois que c'est Horner qui, j'ai l'impression qu'il se sont un peu répartis les rôles dans Red Bull. Il y a Horner qui tape plutôt sur McLaren et qui s'engueule avec eux. Et il y a Marco qui avait déjà sorti l'histoire de, ah ouais, mais on sait pas comment ils
font. Non, mais
ils doivent espionner nos conversations radio. Bah non, ils font comme tout le monde a toujours fait,
Ils jouent au bon flic et méchant flic et tout.
Ouais, voilà.
Ouais, mais Marco, il ouvre toujours un peu sa gueule, pour pas grand-chose.
Ouais. Non,
non, mais sinon, enfin, je pense pas que ça a été fait spécialement pour Ferrari, parce que je pense que de toute
surtout
façon,
que la demande ne vient pas de Ferrari en plus, hein.
Voilà, si jamais Red Bull perdait, de toute façon, ça avantagerait tout le monde, pas que Ferrari.
Oui, voilà.
Oui.
Moi, je pense que voilà, c'est surtout, je pense que le côté inverse, c'est de se dire, ça n'a pas été fait pour Ferrari, ça a plutôt été fait contre Red Bull, même si la FIA s'en défend. Non, nous, ouais. On sait rien contre Red Bull. Il y a quand même 2 décisions de suite qui sont quand même au gros désavantage de Red Bull soi-disant.
Ouais.
Donc voilà, c'est.
Après, un truc qui serait intéressant, je sais pas si ça, enfin dans l'état actuel des choses, est-ce que c'est contraire au règlement ou pas?
Le
soufflage des diffuseurs. Est-ce que ça contredit clairement un article du règlement technique? Parce que si dans l'état actuel des choses, ce serait légal, j'aurais un peu tendance à lui donner raison. Mais si ça contredit déjà un aspect du règlement technique, là, bah, c'est normal qu'ils interdisent, quoi.
Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a, une partie du règlement qui stipule qu'aucun élément à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture ne peut agir sur, d'aucune manière, on peut agir sur l'aérodynamique de la voiture par un système ou par le pilote.
Oui.
Okay. Et il considère en fait que les échappements, l'utilisation des gaz et des échappements, c'est même pas l'utilisation des gaz, mais c'est l'utilisation
donc indirectement la pédale,
cartographie moteur, fait que on détourne le moteur de son usage réel pour agir sur l'aérodynamique. Bon, l'inconvénient, c'est comme l'a souligné fort à propos d'ailleurs Adrian Newey, c'est pourquoi l'interdire en plein milieu de saison alors que le F-Duct on a attendu la fin de saison, que le double diffuseur on a attendu 2 ans, c'est toujours un peu...
Mais le diffuseur, je suis pas sûr qu'il était contre le règlement technique.
Il était contre l'esprit.
Non. Oui, contre
l'esprit. L'esprit, d'accord, contre l'esprit. Mais ça c'est un autre problème.
Voilà.
C'est pour ça que ouais, ils l'ont laissé pendant 2 ans. C'est-à-dire, voilà... Après les changements entre saisons, ça,
oui, là, on peut rien faire.
Et puis c'est surtout, enfin, ce qui est incroyable, c'est que c'est, voilà, ça avait rien de nouveau, quoi.
Oui, et puis c'est surtout que cette année, ils sont un petit peu en train de tuer le championnat, quoi.
Oui, non, mais y a même pas ce, c'est même ridicule quand ils se défendent, quoi. Mais bien évidemment, on le sait que c'est pour parce que Red Bull domine trop. Comme la cartographie.
C'est déjà trop tard.
Là, ils nous ont sorti le changement de cartographie.
Oh, Red Bull, ils ont dit, ça a fait du changement, hein. C'était ce problème, hein. C'est dingue, hein.
Non, mais vous savez, nous, la cartographie, c'est pas là que se trouve notre secret, hein.
C'est ça qui était, ils ont sorti cette règle uniquement parce qu'il y avait des rumeurs. Et finalement, voilà, il y avait rien.
mais en plus, c'est-à-dire que bientôt, on va aussi interdire le fait que les voitures soient piquées, c'est-à-dire qu'on va déterminer un angle d'inclinaison de la voiture limite, parce qu'on sait que c'est l'un des secrets de la Red Bull. Alors après, qu'est-ce qu'on va interdire? On va interdire les voitures bleues. Mais voilà, si on commence à faire les règlements, comme la FIA a toujours fait des règlements par pure ambition politique, juste pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, c'est ce qu'ils ont fait avec le double diffuseur, hein. Ils ont proclamé un règlement, 6 mois après, ils ont dit tout le contraire de ce qu'ils avaient proclamé, juste parce que ça les arrangeait, parce que Ferrari et McLaren étaient largués, et que ça permettait de mettre d'autres écuries en avant.
Mais de toute façon, enfin, l'interdiction des diffuseurs soufflés, bon, ça va peut-être faire perdre quelque chose à Red Bull, mais je suis pas sûr que ça va révolutionner la phase du championnat, hein.
Oh non.
Non, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est moi, je pensais vraiment qu'une écurie qui serait très touchée, dont on parlait pas beaucoup, ce serait McLaren. Et bon, même s'il faut prendre les déclarations de Lewis Hamilton, parce qu'il a un petit peu tendance à dire tout et son contraire là en ce moment. Il a dit qu'il pensait plus au championnat, puis aujourd'hui il disait
ouais,
oh,
ouais.
Non, le championnat j'y pense. Et il
recevoir un petit coup de téléphone.
Lui apparemment s'attend vraiment à ce que la McLaren souffre. Et moi c'est vrai que je pensais que peut-être que ce qui avait sauvé la McLaren en début de saison, c'était justement ce soufflage. C'est vrai que dès qu'ils ont commencé à amener le diffuseur soufflé, à nous mener les nouvelles pièces, la McLaren a mieux fonctionné. Donc je me disais, moi dans ma tête, sans le soufflage bas, en tout cas restreint, ça risque d'être plus dur pour eux. Et Lewis Hamilton dit que, en tout cas il disait dans une interview dimanche soir, qu'il s'attendait à souffrir à Silverstone parce que il s'attendait à être eux aussi très pénalisés. Je pense que tout le monde sera pénalisé. Comme on l'a dit dans une émission avant, la différence, elle se fera tout simplement, c'est que c'est pas le diffuseur qu'il faut interdire, c'est Adrian Newey. C'est Adrian Newey, il va te trouver une solution. Le problème, c'est que même s'ils vont payer cher, il va sans doute trouver une solution plus rapidement que ce que va trouver Ferrari, McLaren, Mercedes et les autres. Parce que voilà, il a juste une vision, une anticipation et un génie. Ce mec, pour le moment, qui est inégalé en Formule 1 et qu'il arrivera à retomber sur les pattes.
Finalement, on l'a déjà dit, hein, peut-être la grosse inquiétude qui reste, c'est pour l'autre Renault. Par rapport
ouais,
à ça.
Parce que eux, apparemment, ils vont vraiment s'en prendre plein la gueule.
Ah oui.
Alors, en plus, d'ailleurs, ce qui était intéressant, alors, j'ai pas beaucoup entendu dimanche F1. Je suis tombé juste sur 5 minutes.
Je l'ai pas vu.
Et ils expliquaient que peut-être aussi l'une des raisons, apparemment, ce qu'on avait expliqué, sur l'une des raisons des performances un peu en dents de scie de Lotus Renault, c'est que les gaz d'échappement, quand ils sortent, ils sont à 900 degrés. Et qu'apparemment, quand ils passent sous la voiture, il y a une différence en fonction de la température extérieure. C'est-à-dire qu'il y a, le comportement du flux est différent s'il fait 30 degrés sur la piste, ou s'il fait 15 degrés, ou s'il fait 40. Donc, c'est pour ça que, en fait, la voiture marcherait plus ou moins bien en fonction des circuits, parce que, il y aurait plus la même quantité d'appui, même si les échappements sortent de façon régulière, la température extérieure jouerait sur la nature du flux.
Okay.
Donc, en quatrième actu.
Ouais.
Là, on rentre dans la thématique McLaren. J'irais même plus, on rentre dans la thématique Hamilton. On va vous donner la recette. Hein. Vous voulez faire un site de Formule 1, hein. Vous voulez commencer en vous en lire, faites des articles sur Hamilton. Même le mieux, c'est dans un même article, vous parlez d'Hamilton et d'Alonso. Et même, voire mieux, mais vraiment là, c'est le top, vous parlez
ouais.
d'Hamilton, d'Alonso, de Nicole Scherzinger,
Singer,
et
ouais.
de Kenen.
Ah ouais.
Encore le top. C'est que vous faites ces 4 là plus Michael Schumacher. Et là vous avez à peu près 3 milliards de visites. Voilà. Donc, puisque c'est un article qui s'intitule Hamilton prêt à être moins payé pour gagner. Puisque dans une interview, on lui a demandé, dans un journal britannique qui s'appelle Express, on lui a demandé tout simplement si qu'est-ce qu'il choisirait entre une bonne voiture et une bonne enveloppe salariale. Et il a répondu sans hésiter, c'est même pas une bonne voiture, il a répondu une meilleure voiture. Alors moi,
ah, intéressant comme réponse.
Mais c'est vrai qu'il avait déjà dit il y a quelques semaines que pour lui, la voiture était la clé de son avenir chez McLaren. Si, il l'a d'ailleurs répété dans son interview, si McLaren est capable chaque année de produire une voiture au même rythme et toujours qui lui permette toujours de se battre pour la victoire et pour le titre, il restera.
Ouais, mais justement là pour le coup, finalement, il va peut-être pas rester si longtemps que ça chez McLaren. Hein.
À ce moment, c'est pas vraiment, vraiment le top.
Oui, enfin, on a vu pire, hein.
On a vu pire.
C'est vrai.
Je suis d'accord.
Tant que sur un coup de tête, il décide pas de partir chez HRT.
Alors, ce qui était en plus très intéressant dans l'interview, c'est je crois qu'à un moment donné, il a fait une phrase à la Hamilton, c'est-à-dire une phrase brosse à reluire.
Merveilleuse phrase.
Une phrase merveilleuse, un peu brosse à reluire, où il a dit que oui, de toute façon, en Formule 1, les pilotes ne pensaient jamais qu'à l'argent. Eh,
oh.
Mon cul. C'est du poulet. C'est vrai que les mecs ils négocient leur contrat, c'est juste pour la beauté du geste. C'est... Les mecs pensent jamais oublier, c'est vrai, ils pensent qu'à la passion. Non, mais...
Alors, qui est donc ta troisième actu, Dino?
Alors, la troisième actu, ça n'est pas une thématique McLaren.
Ah,
exceptionnellement. C'est une thématique Renault.
Ah.
Puisque Renault s'est faite récemment de plus en plus menaçante sur le moteur 2013. Donc, c'était avant qu'on passe au moteur 2014. Voilà.
Oui.
Faut rappeler qu'il y a quelques semaines encore, en 2013, nous devions avoir un 4 cylindres turbo, je crois. Et que maintenant, nous allons avoir un V6.
Un V6 turbo.
les deux, de toute façon, sont bloqués à 12 000 tours et que donc...
Attends, et... c'est pas encore gagné.
Pour le moment, que ce soit le 4 cylindres ou le V6, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est qu'ils sont bloqués à 12 000 tours minute. Ouais. Actuellement, c'est 18 000 tours. On sait que Ferrari s'était opposé de fait à ce petit moteur. On sait que Bernie Ecclestone s'y opposait pour des questions de bruit, etc. Que lui pense avec des dollars dans les yeux, donc forcément, ça le questionnait. Et donc, on a Renault qui s'est un peu agacé parce qu'apparemment, ils ont investi de l'argent. Je crois que c'est 10 millions d'euros déjà d'investir sur le moteur 2013 en développement. Et ils commencent à gueuler parce que le règlement ne venait pas. Et ils ont purement et simplement menacé de partir.
Ouais.
Ce qui ensuite a donné lieu à un compromis autour du fameux V6. Et maintenant, il y a une nouvelle fronde.
Ah oui, non, mais on a appris des trucs de dingue. Ce qui est drôle, c'est que ça devrait être on devrait être dans une situation où finalement tout le monde se met d'accord. Et en fait, c'est toujours le bordel.
Oui.
On a appris plein de trucs. Alors déjà, on a appris que la FOTA avait fait une étude l'an dernier sur le poids, la pollution carbone de la F1. Alors, ils ont découvert que, alors la F1, c'est 0,3% des émissions totales. Alors je pense du sport professionnel, ouais, parce que le sport en général c'est difficile à calculer. Mais voilà, c'est 0,3. Donc la F1 ça pollue moins que le Tour de France. Voilà. Et en fait, pourquoi ils ont fait cette étude? C'était juste pour se dire, mais en fait, ça sert à rien de faire des trucs écolos en F1, parce qu'en fait, en réalité, la F1 ça pollue peu, enfin pas tant que ça. On a appris un autre truc dingue de la part d'Adrian Newey.
Oui, c'est peut-être le plus important.
Ça, c'est le truc de malade. C'est que, en fait, c'est le 4 cylindres, ça venait d'aucune équipe. Ça venait pas de la FIA. Ça venait d'Audi. Audi qui a dit, et là, pour le coup, tu vois, j'ai envie de dire, j'en veux à Audi.
Oui.
Parce que Audi. Je suis en train de me faire niquer ma citation, moi.
Parce que, en gros, Audi a dit, oui,
oui, tu t'es expliqué là grossièrement là. Là tu l'as, ouais. Confirme, ouais.
Audi a dit, oui.
Après chaque a dit, il y a Audi a dit.
Audi a dit, on pourrait venir en F1 s'il y avait des 4 cylindres en ligne. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis à défendre ce truc parce que dans l'idée c'était qu'Audi vienne.
Et finalement,
Audi a dit non. Et voilà, ils ont dit non. Et donc Adrian Newey a dit, on s'est retrouvé donc avec ce moteur sur le dos que finalement personne ne voulait.
Ouais.
Sauf Audi, mais qui vient pas. Ah, ils pourront toujours mettre un 4 cylindres en ligne dans leur R18.
Ouais, voilà.
Ils en sont pas loin, ils ont déjà un V6. Oui. Marc, c'est bon, ils peuvent venir en F1 maintenant, ils ont déjà le moteur.
Oui. Et donc, il y a eu, comme t'as dit, ce compromis sur le V6, donc limité à 12 000 tours. On se disait, ouais, c'est bon, ok, bon, on va reculer d'un an, tout le monde aura des V6. Même Renault, à la limite, ça les arrange, parce que faut pas oublier que le premier V6 turbo qui est arrivé en F1, ça a été leur, donc ils savent faire, il n'y a pas de souci. Et là, qui est-ce qu'on voit arriver de nulle part, hein, parce qu'on les avait jamais vus d'ailleurs avant.
Oui. D'ailleurs, on ne sait même pas s'ils existent.
Oui, donc c'est, si je me trompe pas, c'est Rob Walker, si je me trompe pas sur son prénom, donc qui est le promoteur du Grand Prix d'Australie, qui, semblerait-il, parlerait au nom des autres Grands Prix, sauf la Chine et la Corée du Sud. Donc c'est là que c'est un truc qui devient dingue, c'est qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont, ils sont, alors on avait la FOTA, on avait la FIA, maintenant est-ce qu'on est en train de voir émerger une sorte d'association des promoteurs de Grand Prix, oh là 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 là.
Mais surtout ce qui est important, c'est qu'au-delà même du fait que bon qu'ils s'unissent, ça se comprend, le truc qui est important, c'est qu'ils s'unissent pour se prononcer sur
une
partie du règlement technique, quoi, de la Formule 1. C'est quand même incroyable d'entendre des promoteurs, même si on les comprend, parce que leur argument, c'est, nous, on vend des billets, et c'est vrai que la réglementation moteur, c'est avant tout eux que ça fait chier, parce que,
l'argument, champion, entre guillemets, est logique. Par contre, les exemples sont super pourris. Mais je vais y revenir. Donc, ils disent, en effet, V6, ok, mais on veut pas de 12 000 tours. Parce que 12 000 tours, c'est moins de bruit. Et donc ils disent, les gens qui viennent sur les Grands Prix, ils viennent là notamment pour le bruit. Alors ce qui est drôle, c'est que ils avaient encore rien dit sur le 4 cylindres, ce qui a priori était pire au niveau du son.
Ouais.
Et donc les promoteurs de Grands Prix disent, écoutez, nous on veut que le V6, et c'est là que c'est dingue, c'est qu'en effet ils donnent un avis sur une réglementation technique, ils veulent donc je crois minimum 15 000 tours.
Non, ils veulent 18 000 et c'est les équipes qui ont proposé 15 000 je crois.
Entre 15 et 16, je crois, pour les équipes. En gros, ils coupent la poire en deux, quoi.
Ouais, voilà.
Et donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Et alors ce qui est énorme, c'est les exemples, puisque la menace, la grande menace hein, des promoteurs de F1, c'est de dire s'il n'y a pas un V6 à 18 000 tours, nous, on quitte la F1 et on part en IndyCar. L'IndyCar qui, je rappelle, rien que pour faire des économies d'argent, va avoir un nouveau modèle de voiture, monotype. Hein. C'est l'IndyCar, où il y a des courses aux États-Unis, qui donc, du jour au lendemain, se mettrait à devenir un championnat international avec toute la logistique qu'on connaît. Et avec cette phrase, moi, que j'ai aimée, parce que c'est quand même une espèce de preuve de respect envers les gens qui viennent payer leur place, hein. Puisqu'ils ont dit, après tout, les gens à 100 mètres, ils ne différencient pas une IndyCar d'une F1. Donc après tout, qu'on mette de l'IndyCar, qu'on mette de la F1, c'est pas grave.
Oui, mais honnêtement, faut être honnête. Les gens qui vont au Grand Prix de Monaco, est-ce que c'est vraiment des grands fans de Formule 1?
Ah non, peut-être pas ceux du Grand Prix de Monaco.
Je suis pas sûr. Je pense que là où l'argument, ils ont pas tort, c'est que, faut être honnête, il me semble d'ailleurs qu'on en a parlé de la dernière émission avec Fab, je sais plus si je l'ai laissé au montage, faut être honnête, aujourd'hui, les gens qui se rendent dans les tribunes ne sont pas des fans purs et durs. Ce sont des rendez-vous people, sont des rendez-vous, on l'a vu d'ailleurs à Valence week-end, sont des rendez-vous people, où les gens se rendent juste parce que c'est un événement mondain, et juste parce que voilà, c'est un loisir.
Compare pas ce qu'il y a au Paddock Club, et les gens qui sont
Ouais, parce que justement, s'il n'y a pas beaucoup de gens dans ces pays, c'est en partie à cause du prix du billet. Donc, personnellement, si je suis pas très fan de quelque chose, je vais pas aller claquer des centaines d'euros dedans, quoi.
Oui, on est d'accord dans les trucs Paddock Club et tout ça, il y a des stars qui sont là.
Effet, par exemple, à Shanghai, à qui s'adressent justement les billets, les prix sont élevés, etc., à qui s'adressent les billets, c'est pas forcément des gens passionnés, c'est soit des gens qui dans les nouveaux pays, qui sont des gens qui sont attirés tout simplement par l'événement, juste parce que c'est la Formule 1. Et il y a même des gens, on voit à Shanghai c'est une ville où il y a une population qui est de plus en plus une population de cadres assez fortunés, pour qui aller au Grand Prix, c'est un rendez-vous mondain. C'est quasiment une obligation sociale que d'aller au Grand Prix. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il a raison dans un sens. Aujourd'hui, il faut être honnête, les gens qui vont voir un Grand Prix, il y a toujours des fans, ça c'est certain, mais il y a de plus en plus de gens qui vont voir un Grand Prix parce que c'est the place to be, c'est devenu the place to be. Et que c'est ces gens-là qui cherchent à attirer les promoteurs et la Formule 1. C'est pas, je vais être un peu dégueulasse, mais c'est pas les Pékins comme nous qu'ils vont chercher. Ça serait sinon, on irait au Grand Prix. Justement, le fait que les prix des billets soient extrêmement chers, etc., pour que c'est pas Monsieur Tout le Monde qui cherche à faire venir. C'est un public CSP+. Et le public CSP+, je suis pas sûr que ce soit qu'il soit capable de véritablement faire la différence entre une course de Formule 1 et une course d'IndyCar, puisqu'après tout, ils en ont rien à faire que ce soit des formules monotypes, qu'il n'y ait pas de constructeurs, etc. C'est une course, c'est un endroit où il y a du bruit. Je pense que pour eux, ça changerait pas grand-chose.
La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y aura de la place pour un Grand Prix de France.
Bah, par conséquent, oui.
Oui.
Mais on perdra quand même, théoriquement, Monza, Silverstone.
On en fera 3 ou 4. Un Manicourt, un Paul Ricard, un Roman.
Ouais. Donc voilà, on peut dire. Donc ça, la modification, ça sera pas 2013 finalement, ça sera 2014. Ça sera du V6, ce qui va coûter en effet moins cher. Souvenez-vous, le passage au V10, au V8 n'avait pas été trop compliqué. Même si là, forcément, ça va être du turbo compressé, ça va pas être exactement la même chose. Reste donc à savoir.
Plus, la taille des cylindres ne sera pas la même non plus.
Ah oui. Et donc reste donc cette histoire de tour minute, parce que bon, voilà, ils sont quand même pleins. Il faut pas non plus passer, enfin, faut pas nier en fait cette demande quand même des promoteurs, hein, parce que c'est quand même leur circuit qui sert au Grand Prix.
On l'a d'ailleurs souvent dit dans l'émission. Si on retire le Grand Prix de Monaco, ou si on retire le Grand Prix de Monza, ou si on retire le Grand Prix de Silverstone, le championnat il perd forcément. Et c'est d'ailleurs ce que disent les propriétaires de, enfin le Ron Walker, il dit on va peut-être ne remplir les tribunes qu'à 75%, mais l'argent qu'on va perdre dans les tribunes, on va le regagner parce que l'organisation est moins chère.
Ça va, c'est qu'une question de tour minute, hein.
Oui.
C'est bon, une fois qu'il sera fixé, c'est bon, on aura notre nouveau moteur.
C'est vrai. Maintenant, et toi, Iceman Air, qu'en penses-tu?
Non, bah c'est pas, ouais, je sais pas. C'est encore trop tôt.
Mais c'est pas Iceman Air!
Eh ouais, j'ai changé.
Mais qui est-ce?
Bah, c'est Romain, le responsable de fanf1.com.
Oh non, on a encore changé d'invité.
Mais il va revenir, c'est juste pour remplacer.
Ouais, voilà. On fait appel à des remplaçants de luxe, d'ailleurs. Vous remarquez quand même, on fait pas venir n'importe qui.
Ah non.
Hein, on fait venir les big boss du site, hein. Attention.
On a décidé de...
C'est un grand...
de compenser le Grand Prix. Voilà, vous êtes fait chier pendant le Grand Prix, et ben il se passe plein de trucs pendant le SAV.
Voilà. Alors, par contre, là, je suis d'accord. Hein. C'est bien de la nuit pendant le Grand Prix. Hein.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu penses quoi? On va peut-être refaire l'éphéméride, tu dis. Et là, non, les gens ont peur.
Non, non, mais rapidement, c'est vrai que c'était pas palpitant du tout, quoi. Pas assez de dépassement, et voilà. Mais bon, c'est Valencia, donc.
Donc on est un peu, ça, c'est une petite première qu'on fait ce soir, on est obligé d'appeler un remplaçant. voilà, parce que apparemment Icemaner a eu un petit problème de connexion, un petit problème avec sa box. Voilà, donc on l'a perdu, on l'a retrouvé de façon très courte, puis on l'a reperdu. On a attendu pas mal de temps Icemaner, crois-nous, hein. D'ailleurs, il est actuellement 1h37 du matin. mais bon, faut bien que l'émission continue. Donc, si Icemaner revient en cours de route,
peut-être qu'il reviendra.
Ouais. Voilà, si Icemaner revient en cours de route, bien évidemment, vous le retrouverez d'ici la fin de l'émission. On va continuer avec les news. Hein, donc, on en était au podium, qui n'a pas 3 places puisqu'on est dans le SAV, il avait 5 places. Hein, donc je rappelle rapidement les 3 accus dont on a parlé pour le moment. La FIA favoriserait Ferrari selon Helmut Marko. Un petit commentaire, Romain, ou pas?
FIA égale Ferrari. Alors après...
c'est vrai.
Alors après, est-ce que de là à favoriser telle ou telle équipe, je sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'on dit toujours la F1 est assimilée à Ferrari, donc... Bon, dire, on n'a pas de preuve directe.
Moi, j'ai envie de dire, il va y avoir du sens, soit.
Tu dis, on va perdre notre chef. C'est vrai qu'il y a eu un passif, hein, notamment le statut particulier qu'avait Ferrari dans les précédents accords Concorde, je crois. Il y a toujours eu un statut particulier de Ferrari qui, naturellement, met le soupçon sur tout ce qui se passe. Nécessairement, il y a un soupçon de collusion entre la FIA et Ferrari, c'est assez normal.
Bon, alors après, du coup, c'est pour ça que c'est pas prouvé, donc, de toute façon, il faut faire avec, et qu'il le fasse ou pas, au final, on le saura jamais, quoi.
Bah, c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est que finalement, c'est pas plus fait pour aider Ferrari que pour emmerder Red Bull.
Oui.
Oui, voilà, oui.
Alors ensuite, on avait parlé donc de Lewis Hamilton, qui était prêt à être moins payé pour gagner.
Ouais, bah, ça fait pas de mal, ça, par contre. Non, mais c'est vrai que quand on regarde les petites écuries où du coup eux ils ont pas trop le choix, ils sacrifient voire même ils apportent de l'argent, pourquoi est-ce qu'Hamilton ferait pas pareil pour que son équipe dépense plus en recherche et développement que les autres, quoi.
Est-ce que tu crois que c'était pas un appel du pied à Red Bull en disant ouais, je suis prêt à être payé pas cher si vous m'engagez?
Ah non, je pense pas. De ce côté-là, je suis pas sûr. Mais bon, c'est pareil, chacun a sa vision, mais je vois pas du tout Hamilton aller chez Red Bull.
Et donc, pour revenir au sujet dont on était en train de parler de Renault qui se faisait menaçant sur le moteur 2013 au moment où t'es arrivé.
Non, c'est pareil, c'est une bonne, enfin, c'est bien que Renault fasse entendre sa voix parce que c'est vrai qu'ils font pas, enfin, ils font partie quand même de la F1, même si ils sont plutôt en tant que motoristes. Du coup, moi, peu importe les moteurs qu'ils y mettent, le principe c'est d'attirer plus une catégorie de gens, on va dire plus proche de l'automobile d'aujourd'hui, quoi. Donc oui. Forcément si ça plaît à Renault, si ça plaît à Mercedes, si ça plaît à pourquoi pas Audi, puisque du coup il y a aussi des rumeurs devenues d'Audi, bah tant mieux, quoi.
C'est ça, après c'est aussi, je pense qu'il faut faire aussi après confiance aux écuries, et je pense qu'ils râlent parce qu'ils n'ont pas envie de changer. Maintenant, je pense que si on avait maintenu le 4 cylindres, ils auraient fait des voitures très performantes.
Oui,
ils auraient eu voilà, enfin c'est et d'ailleurs ça a peut-être même été plus intéressant, parce que je me demande si un plus petit moteur n'aurait pas au contraire forcé les écuries à être plus agressives dans l'aérodynamique.
Reste maintenant à voir, bon, le moteur ça sera du V6. Voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant autour du moteur? Parce qu'on avait parlé de beaucoup de choses au niveau de l'aéro, mais là, forcément, il va falloir prendre des décisions.
Voilà, après, je reviens juste sur ce que tu viens de dire, c'est que, enfin, pour moi, ça a aucun sens d'arrêter les développements, en fait, de tous les côtés de la Formule 1, en fait. Parce que, du coup, on arrête le développement des moteurs, on les réduit même. D'un autre côté, on interdit d'avoir les appendices aérodynamiques, donc on essaye de réduire au maximum l'aérodynamique. Et, enfin, je trouve que ça n'a plus aucun sens où on réduit à tout va les performances. Et finalement, ce qu'on recherche dans la Formule 1, c'est justement de trouver les meilleures performances avec ce qu'on a, quoi. Ouais. Et du coup, bah, si on enlève tous les aspects de croissance, on va dire, de la vitesse, bah, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Même le fait de limiter le nombre de tours par minute, le nombre de tours moteur, je trouve ça aussi ridicule, quoi.
Mais c'est même d'ailleurs intéressant, c'est aussi de voir que on dit souvent que le règlement stérilise un peu les velléités d'inventivité de certains ingénieurs, même si ils arrivent toujours à trouver des trucs. Hein. Ce qu'on perd à cause du règlement, les ingénieurs le retrouvent grâce au développement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement les écuries sont tout aussi conservatrices que la FIA parfois, puisque là ils ont quand même un défi énorme qui se proposait à eux, c'est-à-dire propulser des Formule 1 avec des petits petit moteur, avec de nouvelles contraintes techniques et compagnie, parce que je crois que j'ai pu comprendre en lisant certaines interviews que le petit moteur nécessitait d'avoir beaucoup plus d'espace, assez bizarrement d'avoir plus d'espace autour de lui pour pouvoir véritablement fonctionner, et que ça aurait été, je pense, un challenge formidable pour les ingénieurs que de travailler sur ce moteur avec cette nouvelle réglementation, et que bah, finalement ils préfèrent quand même rester, on le voit avec Ferrari, sur des choses qu'ils connaissent, des choses qu'ils maîtrisent, où ils sont relativement sûrs de pouvoir être bons malgré tout.
Après c'est pareil, si tu rates Ferrari, c'est vrai que ce qu'ils veulent eux, c'est la compétition, leurs moteurs ils sont pas du tout petits, ça va pas être des V6, il va pas y avoir forcément que des V6. Audi c'est pareil, ils ont pas forcément, quand ils font de la compétition, intérêt à changer et à avoir des moteurs en V6, sachant que on va dire leur effigie en ce moment c'est la R8, et la R8 c'est un moteur V10 quoi, donc ils vont pas promouvoir en F1 du V6 alors qu'ils font du V10 quoi.
Puis surtout, moi, j'ai toujours quand même un peu de mal, c'est l'idée de se dire que, certes, la F1 doit être un vecteur de technologie, mais la F1 ne doit pas nécessairement se ramener à la technologie d'aujourd'hui. Je pense que les gens sont quand même suffisamment intelligents pour savoir qu'une Formule 1, oui, c'est pas une voiture comme les autres, et que, bien évidemment, que le moteur qu'elle emploie, c'est un moteur spécialement préparé, etc. Bientôt, on nous dira, faut qu'on puisse mettre un moteur de Clio ou un moteur de Twingo sur une Formule 1 pour vraiment bien vendre les moteurs. C'est un peu l'argument.
Après, c'est pas forcément dépendant du type de moteur. Je veux dire, même sur quand ils sont double champions du monde sur un V10, il y a quand même une image de marque qui est là finalement.
Voilà, c'est sûr.
Même si c'est pas du tout les moteurs qu'il y a dans les Renault de route. Sachant que le V6 visiblement aura une consommation plus faible de toute façon.
Oui, mais c'est l'objectif, ça c'est sûr. Voilà. La FIA, c'est clair, c'est réduire les consommations. Mm. De toute façon, c'est sûr que on va pas pouvoir y échapper, mais en 2020, je sais pas quand, on va forcément rouler à soit des carburants écologiques, soit des moteurs électriques.
Hein. Quand on voit l'endurance qui est passée au diesel et que cette année on a eu la première voiture hybride, forcément il y aura ce genre de choses qui va arriver un jour. C'est-à-dire que la F1 doit aussi se préparer. Je pense que c'est aussi une révolution. C'est là où c'est intéressant la question, notamment la fronde des circuits, c'est qu'il y a aussi derrière toute une révolution des mentalités. Moi, je sais, pour avoir vu au Stade de France le trophée Andros, où ils avaient présenté la voiture Andros électrique, quand ils ont fait un tour circuit, on l'entendait à peine, et où il y a une bronca contre les voitures parce qu'on les entendait pas. C'est vrai que systématiquement le sport automobile s'est associé au bruit, et je comprends que les circuits aujourd'hui se plaignent. Je me rappelle l'émotion qu'il y avait, la larme qu'il y avait chez certains fans en 97 quand Renault s'est retiré. On nous passait le bruit du moteur Renault pour dire, voyez, on n'entendra plus, etc. Puis bon, on a quand même apprécié le bruit des moteurs derrière. Donc on nous a fait aussi le même coup quand on est passé du V10 au V8. Hein. Bon voilà, je pense que c'est une question d'habitude. Une fois qu'on aura pris l'habitude et qu'on acceptera que le bruit change, etc., on retrouvera le plaisir autrement.
Tout à fait d'accord.
Donc on arrive à la deuxième actu.
Ouais, la deuxième actu la plus lue, c'est tout simplement Button qui prolongerait son contrat avec McLaren jusqu'en 2013 après un énorme feuilleton qui l'envoyait du côté de Ferrari. voilà, bon bah feuilleton. Alors c'est pas encore officiel, hein. Il y a des sources qui laissent à sous-entendre que ça serait officialisé au Grand Prix de Silverstone, enfin Grand Prix de Grande-Bretagne, même si certains détails restent à régler d'ici la fin du mois de juillet. Mais voilà, donc on parle d'une augmentation de salaire d'à peu près 2 millions d'euros, je crois, et d'une prolongation de 2 ans. Enfin, il a un contrat actuellement avec une option qui peut être activée par l'écurie, ce qui fait que si l'écurie voulait l'avoir en 2012, quoi qu'il arrive, il n'aurait pas pu aller chez Ferrari. Et il a renouvelé, donc il a transformé cette option en prolongation de contrat de 2 ans jusqu'à fin 2013.
Ah, c'était un remplacement de Massa chez Ferrari, c'est ça?
Ouais.
Oui, non, pas d'Alonso quand même.
c'est pareil, Massa, de toute façon, il va bien falloir qu'il le remplace à un moment ou à un autre, à mon avis.
Oui. Ça, maintenant, ça appartient, c'est entre les mains de Massa. Massa a montré, avec une voiture pas mauvaise, il a montré qu'il restait quand même là sur les deux derniers Grands Prix dans le coup et qu'il pouvait toujours assurer le service. Maintenant, c'est vrai qu'on l'avait déjà dit l'an dernier, si Ferrari veut se battre pour le constructeur, c'est quand même l'un des objectifs de Ferrari, il faut deux pilotes solides. Surtout qu'en face, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on prend chez Red Bull, Vettel domine, mais il y a aussi Weber qui est très costaud. Et en face, surtout chez McLaren, on a Hamilton et Button, deux champions du monde. C'est des arguments de poids. C'est-à-dire que là où Ferrari pouvait se permettre d'avoir un numéro 1, un numéro 2 il y a 4-5 ans, là aujourd'hui, il leur faut un numéro 1 et un gros numéro 2. Ce que ne semble plus vraiment être pour la Scuderia, Massa. Maintenant, qui est sur le marché,
Il y a toujours l'hypothèse Weber, hein.
Ouais, mais il pourrait changer, même à ça, Weber.
Mais bon, je vois mal Weber quand même partir de chez Red Bull pour aller chez Ferrari, que ce sera peut-être même pire en termes d'équité. Voilà.
Et sinon, quelle était la première actu, à moins que Romain, tu veux rajouter quelque chose?
Non, je pense qu'on...
Alors la première actu, hein, je disais au tout début du podium de l'actu que c'était une petite thématique McLaren et que j'avais donné un petit peu la recette pour, excuse-moi Romain, j'ai un peu révélé des secrets, hein, mais pour tous ceux qui veulent lancer un site de Formule 1 aujourd'hui, s'ils veulent tout de suite faire des chiffres, il faut forcément faire des articles sur Hamilton, voir Hamilton, Alonso dedans, voir Hamilton, Alonso, Schumacher, Schrödinger, Raikkonen, tout ça dans la même actu, tu fais 1 milliard de visites.
Non, mais et c'est là, vrai en plus.
Et là ça a marché parce que il y a un article qui s'intitule sobrement Hamilton et Alonso ne pensent déjà plus au titre. Qui a été le plus lu, hein, sur la dernière quinzaine, où effectivement Lewis Hamilton et Fernando Alonso disent que le titre s'est terminé, même si depuis Hamilton s'est rétracté en disant non mais on y croit encore sur son Twitter.
On lui a tapé sur les doigts, ça
apparemment, visiblement. Ouais.
Donc on est d'accord qu'il s'est pas, enfin, d'un côté il a pas dit j'ai retrouvé l'espoir de gagner le titre, il a dit je vais continuer à me battre. Donc
oui,
il y a pas forcément de contradiction en fait.
Non, mais ça, que, c'est vrai. Est-ce que le ton n'était pas le même dans ses déclarations, vous disiez oh, je n'y crois plus vraiment, voilà. Et d'ailleurs même quand il parlait de Steve Austin, il disait oui on va y aller mais il faut pas se bercer d'illusions, on va pas y gagner.
Oui,
là on sent que
quand, voilà, même... quand on lit son tweet, enfin quand on voit ce qu'il a écrit sur Twitter, on voit très bien que il peut permettre à ses fans de venir et d'y croire, mais il avertit quand même qu'il sera peut-être pas forcément le.
Bah, tout comme Alonso qui savait sans doute, il y a pas de raison qu'il croit au titre après le Canada et qu'il n'y croit plus tout d'un coup après l'Europe alors qu'il fait une deuxième place là où au Canada il avait abandonné. Tout d'un coup il y croit plus. Oui, enfin s'il y croyait avant le Grand Prix d'Europe, c'est juste parce que il fallait consoler un peu les fans espagnols, qu'il fallait pas non plus plomber le week-end. Par contre une fois qu'il est parti de Valence, il a dit non mais c'est bon, ça y est, c'est mort, on ne compte plus.
Mais alors justement, moi je me demande si c'est pas aussi un appel à la FIA. Est-ce que ça veut pas dire Hamilton, Alonso, c'est bon, on est hors catégorie pour le titre, donc faites quelque chose pour rabaisser Red Bull, quoi.
Bah je pense plus que la FIA, je pense que surtout là on est rentré un peu dans une période de grosse intoxication. Je pense que aussi l'objectif pour eux c'est d'abord se retirer un peu de pression, faire ce qu'a dit Vettel l'an dernier. Vettel à 5 courses de la fin, il dit je pense plus au championnat, je prends course après course. C'est ce que sont en train de dire les deux Gugus, hein, ni plus ni moins. Et indirectement c'est sacré par avance Vettel, et du coup peut-être le mettre dans une situation où il deviendra un peu présomptueux et fera des erreurs.
La situation n'est pas la même quand même. Hein.
La situation n'est pas la même, mais c'est quand même assez étonnant. C'est d'ailleurs, je le mets dans l'article, c'est que ces deux mecs qui sont quand même réputés pour avoir des caractères de chien, qui ne lâchent rien, même s'ils le pensent, de là à dire oui, on pense plus au titre après la 8e course, c'est soit vraiment ils sont totalement démoralisés, soit quand même derrière ils ont aussi un objectif qui est objectif de déstabiliser l'adversaire, en tout cas de jouer un petit peu avec ses nerfs. Ils ont plusieurs fois fait ça. Ça serait pas étonnant. En face, le truc c'est que Vettel il a répondu non mais moi je prends course après course, je suis nul en maths.
Ah puis ils ont dit hein, pas question d'être épicier. Hein. Ah non.
Bah s'ils peuvent faire, ils ont dit si on peut faire troisième, on fera troisième. C'est on a déjà du mal à le concevoir. mais on fera pas septième. Voilà, on fera troisième.
On pourra peut-être faire les citations, en profiter.
J'en avais une petite qui me plaisait bien.
Bien, nous t'écoutons.
Qui est une citation de Lewis Hamilton.
Ah.
Qui a déclaré, ils ne font plus de circuits comme ça de nos jours. Et il parlait bien évidemment du circuit de Watkins Glen, sur lequel il a échangé sa monoplace de 2008 avec Tony Stewart. Et oui, il est rentré dedans. et il est revenu sur son circuit qui était au calendrier de la F1 à l'époque du Grand Prix des États-Unis dans les années 60, je crois. Et qui, qu'il a même qualifié de petit Nordschleife.
Ah, oh.
Et il a dit, en Formule 1, les installations sont magnifiques, j'ai jamais rien vu de mieux. Mais il faut reconnaître que niveau circuit, le Glen est un très beau circuit. Et moi, ce qui m'a plu, c'est de me dire, on a quand même un pilote de la jeune génération qui, entre guillemets, en Formule 1, est un petit peu élevé avec une moitié de bon circuit, une moitié de circuit de merde, et qui a quand même énormément de goût en matière de circuit. ça rassure, voilà. On voit quand même que ce sont des pilotes qui ont envie de challenge, qui ont envie d'avoir des beaux circuits avec des bonnes voitures dessus, et il faut qu'on leur donne, tout simplement. Il faut qu'on écoute ce que dit Lewis Hamilton et ce que disent les autres sur ce qu'ils veulent de la F1, et je trouve que les pilotes ne sont pas suffisamment entendus, et eux ne s'expriment pas suffisamment.
Tout à fait.
Non, moi je vais prendre une petite citation de Tony Fernandez. Ce qui est bien, c'est que Red Bull était dans la même position que nous il y a 5 ans. Et ça, quand même, c'est quand même avoir de l'espoir.
Non, ouais. Optimiste, ouais, c'est sûr.
Ah oui.
Non, mais c'est vrai, il a raison, en plus, hein.
Oh. Bah, c'est vrai que s'il y a quelqu'un, il y a 5 ans, chez Red Bull, qui nous avait dit ça, on se serait foutu de sa gueule.
Oui.
Bon, après, ils n'ont pas les mêmes moyens et puis pas les mêmes investissements, ouais, pas les mêmes investissements et...
Après, il faut quand même dire que la Lotus, cette année, il y a du progrès. Ils n'ont pas encore marqué de points, mais il y a quand même du beau progrès sur cette voiture, sur cette équipe.
Bon, il y a une petite baisse de forme, quand même.
Là, ouais, c'est vrai.
C'est un grand prix, là. Mm. C'était propre à chaque circuit aussi. Mm. Mais c'est vrai que c'est leur deuxième année d'existence, ils ne sont pas trop mal non plus, quand même.
Mm. Puis ils partent de zéro.
Oui, bon, Romain, c'est vrai que tu es arrivé en cours.
Si, mais moi j'en ai une petite. J'ai ma petite citation. Donc, que j'ai vu ce week-end, en fait, justement, parce que je me suis interrogé sur pourquoi les Renault étaient pas, les Lotus Renault étaient pas au top. Et en fait, je suis pas le seul à m'être interrogé parce que Hetfeld, du coup, dans sa citation en conférence de presse, s'inquiète aussi de la même chose. Et, sans reprendre tout ce qu'il a dit, je citerai juste la dernière phrase où il dit, honnêtement, je ne m'attendais pas à finir derrière une Force India et une Toro Rosso, alors il faut chercher pourquoi. Nous étions hors du coup. Donc, finalement, même chez Renault, c'est l'interrogation. Donc, ça peut aussi être rassurant pour les fans du Losange ou de Lotus maintenant ou de Nick Hetfeld ou de ceux qui aiment pas Alonso, je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est peut-être aussi un cas un petit peu exceptionnel où du coup ils sont pas rentrés dans le top 10 comme ils auraient voulu quoi. C'est aussi à cause peut-être du circuit et finalement c'est ce qui fait que j'aime peut-être pas ce circuit non plus.
Bien, c'était des bien belles news.
Oui.
On va passer à la course.
Non, ouais. Pas la course.
Je pas sais, celle-là. Cette semaine, ça va être dur. Hein.
Oui,
d'ailleurs, comme on l'a dit à Ice Manair, j'ai envie de dire à Romain aussi, il a pas de bol.
Oui, non, c'est vrai. Que...
mais non, faut pas dire ça.
Donc, non, rappelons les qualifs.
Mais oui, on le savent, Romain.
Rappelons les qualifs et rappelons qu'il y avait donc une petite modification du règlement, hein, puisque désormais, les cartographies moteurs course et qualif doivent être les mêmes. Plus exactement, en fait, on ne change plus les cartographies entre les deux. Et j'ai envie de dire, dis donc, ça s'est vu le changement, hein. C'est dingue, hein.
Ouais, wow. Pas beaucoup d'effets.
Ah non, parce que j'en parlais un peu plus tôt dans l'émission, c'est vrai que tout ça, c'est venu simplement d'une rumeur, en disant, oui, comment ça se fait que Red Bull est si forte en qualif, et puis, on voit bien, il domine, mais peut-être un peu moins flamboyant en course, même si c'est quand même très impressionnant. Donc, beaucoup de gens se sont dit, ah, c'est peut-être parce qu'ils ont une cartographie spéciale, et non. La place du con cette semaine, quelqu'un qu'on a déjà vu à cette place.
Oui, qui est même un abonné, hein.
C'est Rémy Alguersuari, hein, sur sa Toro Rosso. Encore une fois, j'ai envie de dire 18e. Franchement, je vais vous dire un truc. Déjà, la course était chiante, mais moi, dès les qualifs, j'ai dormi devant les qualifs. Parce que bon, déjà, les qualifs sont pas... Et moi, franchement, même les qualifs vont pas...
Tu peux pas faire ça. On peut pas dormir devant les qualifs. Pas cette année.
Assoupi.
Ah non, cette année, on n'a pas le droit de dormir. Non, Shinji, tu n'as pas le droit.
Tu n'as
pas le droit de dormir.
Donc, Alguersuari, hein, place du con, en Q2... qui retrouve-t-on? On retrouve un Petrov qui fait que 11e, hein. Déjà, on sentait chrono,
Ah ouais, déçu. Hein.
Ouais, décevant. Sinon.
Mais finalement, est-ce que c'était, enfin, moi, du coup, j'étais plutôt motivé qu'il soit 11e plutôt que 10e.
Oui, forcément.
Parce qu'au final, du coup, il peut choisir sa stratégie.
Même si ça n'a pas empêché Renault en qualification de ne pas faire rouler Hetfeld en Q3, ce qui est, bah, tiens, je t'ai dit, j'ai trouvé mon drive-thru!
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Il est bon ce café ?
Très bon. D'ailleurs, faut que je repasse mon linge. Donc oui, un petit drive-thru, mais vraiment un petit drive-thru très rapide, à Lotus, Renault, et je crois que c'est à Force India.
India, oui.
Qu'on fasse un tour en Q3 et qu'on rentre au stand, avant, qu'on fasse pas la fin de la Q3, je comprends. Qu'on roule pas au début pour économiser des pneus et qu'on fasse juste un tour à la fin, je comprends. Mais qu'on se fasse chier à se qualifier en Q3 pour ne pas rouler du tout, c'est là vraiment c'est faire injure à la Q3 quoi, c'est à la limite, je comprends qu'ils veuillent économiser les gommes, mais se qualifier en Q3 oui. Pour économiser les pneus, au moins faire un tour avec des pneus durs, tu sais tu vas pas les utiliser, au moins tu fais un tour en pneus durs.
Ouais, mais après t'es obligé de commencer
même usé quoi.
Ouais.
Oui, mais enfin là c'est là le pire quoi, c'est-à-dire que là ils ont snobé la Q3. Donc on pense que c'est pour économiser des pneus tendres neufs. Sauf que on le voit avec le graphique qu'on a fait ce week-end sur les stratégies. Ils n'ont pas utilisé les pneus tendres neufs au départ.
Oui,
ils ont d'ailleurs
usagé.
T'as raison, Shinji, mais on fait comment justement pour le règlement t'as qu'un expert, parce que du coup si on court pas en Q3 quel pneu on décide de mettre.
Mais franchement, on l'a vu depuis plusieurs courses, il y a un souci, il y a un ajustement à faire sur cette question des pneus au qualif. Alors j'ai vu que Pirelli apparemment aurait dans l'idée des pneus de qualif carrément.
Oui.
Pourquoi pas, que je l'avais dit, redonner plus de pneus. Parce qu'il y a un souci, ils arrêtent pas d'être à l'économie.
Moi, je maintiens ce que j'avais dit aussi, ce que j'ai proposé, c'est-à-dire que en ce moment, c'est pour la qualif et la course, c'est 3 trains de pneus tendres, enfin les plus tendres,
oui.
3 trains de pneus durs. On l'a vu encore une fois ce week-end, les mecs, ils ont fui les pneus durs. Pourquoi ne pas faire tout simplement 4 trains de pneus tendres et 2 trains de pneus durs? Les mecs, ils préféreront toujours avoir les pneus tendres. Généralement, c'est ce qu'ils préfèrent prendre parce que ça va plus vite, etc. Surtout cette année où il y a une vraie différence entre les deux. Ou alors obliger tout le monde à dire voilà, si vous ne participez le même principe que les 107%, si vous participez à la Q3, vous devez faire un tour. Si vous ne faites pas de tour, bah, votre temps est éliminé et vous avez une pénalité de 5 ou 10 places parce que vous
alors moi je suis favorable à ça même totalement, parce que du coup c'est vrai que c'est anti-jeu et finalement les gens qui viennent jusqu'au bout, ils voient quoi? Ils voient que 6, 7, 8 voitures tourner alors qu'il pourrait y en avoir 10. Déjà 10 voitures sur un circuit qui fait 8 km, si on imagine Spa, ça va être ridicule. Donc si en plus il y en a que 6 ou 8 qui tournent, enfin forcément pour le spectacle c'est pas bon quoi. Donc il vaut mieux leur donner une pénalité.
Donc sinon, pour continuer, bon bah en Q3 comme d'habitude, les deux Mercedes. Bon.
Oui. À signaler, c'est rare qu'elles soient toutes. En ce moment, c'est un peu plus fréquent, mais
ouais.
C'est pas une évidence en début de saison.
Et non, mais ils ont fait des bons progrès quand même.
Ouais. Ouais.
Alonso qui fait un très bon résultat, puisqu'au lieu de faire 5, il fait 4.
Ça le change.
Et puis bon, voilà, Hamilton 3, Weber 2, puis je sais plus quoi dire. Parce que c'est un 22e.
Après, on peut aussi regarder le nombre de tours qu'ils ont fait. Enfin, là, je toujours en étant sur live, Vettel est celui qui a fait quasiment le moins de tours avec Hamilton, quoi. Donc, c'est ceux qui ont économisé leurs pneus et au final, Hamilton n'est pas forcément, pas forcément bien placé.
Oui. 28e pole pour Red Bull, 183e pour Renault, à une moyenne de 201,169 km/h. En circuit urbain, quand même, ça va vite.
Bon, c'est vrai que déjà cette qualif avait donné un petit peu le ton de la course, parce qu'elle était. Alors je sais pas si c'est une impression du fait de la longueur du circuit ou voilà, mais enfin vraiment, c'était très mollasson, très.
Ah tu vois.
Ouais non, mais je crois même l'avoir dit pendant le live que c'était mollasson et que moi je me suis fait chier pendant la qualif quoi. Et en plus le tour, c'est peut-être aussi ce qui est très chiant à Valence, c'est que le tour est incroyablement long, trop long, 1 minute 40 c'est trop long, en comptant le tour d'entrée, le tour rapide et le tour de sortie, t'as déjà bloqué 5 minutes.
Bah, le circuit c'est plus de 5 km.
Voilà, y a rien à faire quoi, et le tour vraiment est trop trop long.
Ouais, mais je pense aussi que le fait qu'il y ait des barrières tout le long du circuit, ça aide pas. En fait, on a un peu l'impression de, enfin, si on regarde pour ceux qui regardent la télé, on a un peu l'impression d'avoir toujours la même image.
Ouais.
Parce que finalement, il y a toujours la même route avec à la même distance, les mêmes barrières, et du coup, vu qu'on voit pas le paysage autour.
Une grue d'un côté, un yacht
ouais,
de l'autre.
Un hangar et des.
Bah, c'est d'ailleurs le reproche qui avait été fait la première année, c'est que finalement, on avait l'impression que les voitures roulaient entre des murs.
Après, c'est aussi peut-être le circuit qui a moins d'intérêt parce que, enfin, Monaco. Une fois, enfin, quand on passe à Rascaz, quand on passe au casino, la piscine, il y a plein de virages qui sont, enfin, qui sont reconnaissables déjà.
Moi, j'aime bien le circuit. Je reconnais que j'aime bien le circuit dans le jeu. F1 2010, c'est très sympa à piloter. Maintenant, c'est vrai qu'on n'y a jamais vu des courses super intéressantes, des qualifs super intéressantes. C'est pas un circuit très télégénique quoi qu'il arrive. Donc.
Ouais.
Alors c'est pour ça que quand ils disent qu'ils vont peut-être prolonger jusqu'en 2015, ça fait peur quoi. Ou même voire pire qu'ils vont considérer Monaco Valencia comme le Grand Prix d'Espagne à la place de Barcelone. Mm. Enfin moi ça me gêne quoi.
On passe à la course. Donc comme d'habitude, hein, merci à tous d'avoir voté, hein.
Oui, thank you.
Dis-nous, tu je te propose de revenir sur ceux qui ont eu des points mais qui ne sont pas dans le top 10.
Donc nous avons en 23e position Execo, Liuji et Glock. Et oui, c'est incroyable. Me demandez pas pourquoi. Nous avons en 22e position, alors ils ont 0 points, Liuji et Glock, hein. En 22e position, nous avons Pastor Maldonado avec 1 point. À titre de comparaison, le vainqueur du jour a 567 points. Le 21ème, Trulli à 2 points, Execo avec Kovalainen, donc il est 20ème, Execo avec Kovalainen, voilà. D'Ambrosio, 19ème à 4 points, Di Resta est 18ème avec 10 points, Sébastien Buemi est 17ème avec 11 points, Neran Kartikeyan est 16ème avec 12 points, Nick Heidfeld est 15ème avec 19 points, Vitali Petrov et Kamui Kobayashi sont 13ème Execo avec 23 points, Rubens Barrichello est 12ème avec 28 points, et enfin Sergio Perez et Mister Eleven avec 30 points. Voilà, c'est tout pour le moment.
Alors, à noter, alors j'ai quand même cité ceux de Dice Manor, hein, puisqu'on les a.
Oui.
Alors, moi et Dice Manor, on avait donné un point à Perez, parce que c'est vrai qu'il finit 11ème, il fait une stratégie à un arrêt, donc c'est un des rares qui n'a pas suivi la même stratégie que tout le monde.
Oui.
Donc voilà.
Je suis d'accord. Ouais.
Voilà, j'avais envie de lui donner un point. Je
et
pense
qu'il a d'ailleurs plus roulé avec les tendres qu'avec les médiums.
Ça, c'est pas mal.
Il fait le début de course en médium et il finit avec les tendres. Donc, voilà. Comme la voiture est plus légère, les tendres, je crois, moins, mais quand même, c'est quand même assez impressionnant.
C'est vrai que moi, bon, sur le classement, c'est vrai que quand c'est très chiant, on a tendance beaucoup à suivre le vrai classement. Et honnêtement, je pouvais pas mettre un point à Heidfeld, quoi. Non, quand même pas, on l'a pas vu. Voilà. Sinon, toi, Dino, tu as donné un petit point à Kartikeyan.
Tu veux même citer l'autre, comme ça, c'est pour les mêmes raisons.
Et tu as mis 2 points à Trulli. Donc, oui. Pour les mêmes raisons.
Bah, parce qu'en fait, j'ai mis des points aux pilotes, enfin, comme on n'a pas vu grand chose, pour les partager, j'ai pris bien évidemment le classement, mais en plus, j'ai essayé de pondérer un petit peu avec ce que j'ai vu en course. Et j'avais, comme toi, pas envie de mettre Heidfeld, bizarrement. Donc, je me suis dit, tiens, quel pilote j'ai vu, et j'ai pensé à Kartikeyan parce que à un moment donné il est dans la portion rapide vers la fin et c'est le symbole de circuit où finalement on peut pas dépasser même quand on est beaucoup plus lent qu'un autre puisque Weber arrive derrière, il y a Kartikeyan devant et Weber se met à s'énerver, il est à fond à 270-280, il est à fond, il s'énerve et tout, il est pas content. Et j'ai mis Trulli pour à peu près la même raison puisqu'il nous a quand même fait une belle frayeur, en tout cas aux fans de Ferrari, il nous a fait peur puisqu'à un moment donné Fernando Alonso est arrivé vers le dernier virage, le dernier freinage là. Où on arrive vraiment très très vite et tout d'un coup il a dû se glisser entre le mur et la Lotus de Yarno.
Ouais, mais c'est impressionnant quand même.
C'était assez impressionnant. Voilà, moi c'est juste pour dire que je les ai vus et que c'est aussi un peu l'occasion, comme généralement là, comme tu disais tout à l'heure Shinji, on n'a pas forcément grand chose à dire sur des courses où il s'est pas passé grand chose. Et là c'est vrai que j'avais envie de mettre que 8 pilotes. Il en fallait 2. Avant, dans l'ancienne version du SAV, on mettait un peu n'importe quoi en 9e et 10e. Là, grâce à toi, Romain, d'ailleurs, je te remercie devant tous les auditeurs. Grâce à toi, on a un beau formulaire qui permet de tout gérer super vite et compagnie.
Ouais, trop d'honneur, trop d'honneur.
Et donc,
je mets 5 minutes à faire le classement.
D'ailleurs, globalement, profitons-en globalement, hein, vu qu'on te tient sous la main, pour te remercier hein, de l'intégration du SAV sur le site. Et voilà, on est très content du passage du SAV sur FanF1. Et je pense que nos auditeurs traditionnels, ceux qui nous suivent depuis le début du SAV ou presque, ont été rassurés de voir que le SAV c'est aussi facilement intégré à FanF1. Et voilà.
Bah, de même, mais j'espère surtout qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter.
Parce que vous savez pourquoi la F1 sur Internet, c'est sur FanF1.
Ah, faux cul.
Par contre, c'est vrai que la F1 sur Internet a de plus en plus d'intérêt.
Oui.
Entre le live qui est accessible sur le site officiel et puis toutes les informations qu'on voit plus sur TF1, justement. D'ailleurs, on sait pas pourquoi ça s'appelle TF1, puisqu'il n'y a pas d'F1.
Ça va s'appeler T. Ouais, maintenant, on va appeler ça T.
Non, mais du coup, voilà, il faut qu'il y ait des sites TF1. Voilà, on va éviter de pleurer.
Quoique, on va peut-être pleurer pour le dixième. Parce que parfois,
j'ai
il y a
même pas envie d'en parler, Chine.
On se dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Puisque, avec 60 points.
À se coucher avec les auditeurs, c'est pas possible.
Avec 60 points, c'est Michael Schumacher qui est dixième du classement.
Tradition.
Ah ouais, mais là.
Est-ce que toi, tu l'aurais mis dans ton classement, par exemple, Romain?
Voilà.
Mais en fait, moi, je l'ai pas mis, mais je l'aurais mis 11ème en fait, parce qu'il y a pas d'11ème, mais je l'aurais mis 11ème juste pour dire que bah il mérite quand même d'être bien positionné, parce que finalement, même s'il fait une bêtise, il a fait des bonnes qualifs, il était, je crois qu'en qualif, il était à même pas un dixième de Rosberg, donc finalement, c'est pas
d'ailleurs,
trop.
D'ailleurs, il s'est excusé, il a reconnu.
Oui, il a pris la faute pour lui, ouais.
Profitez-en, c'est rare.
J'ai été assez étonné d'ailleurs parce que apparemment sur les images, les commentateurs ont dit que Petrov avait fait un geste pour plus ou moins s'excuser d'avoir heurté Schumacher. Mais finalement, c'est vrai que c'était lui qui était en tort. Donc j'aurais bien aimé savoir s'il en est pas doc.
Ce genre de choses.
Oui, en plus. J'aurais bien aimé savoir si en plus si Schumacher c'était qui s'était excusé le premier entre les deux pilotes dans les paddocks quoi.
Oui. Bon, c'est clair,
c'est sympa de savoir si c'est Schumacher.
Normalement, c'est à celui qui sort des stands qui doit être le plus attentif et voilà, bon, c'est un accident de course, mais c'est vrai que s'il y a une petite responsabilité, moi je me rappelle, je crois que c'est Bourdet qui avait copé d'une pénalité à cause de ça, c'est d'ailleurs étonnant et en même temps rassurant que la FIA n'ait pas intervenu parce que il fut une époque où pour les accrochages en sortie de stand comme ça, il y a un ou deux ans en Malaisie d'ailleurs, je crois, où des pilotes avaient été sanctionnés parce que voilà, le pilote qui sort des stands est responsable de sa sortie des stands.
Allez, passons dans ce cas-là directement à la 9e place. Il a marqué, combien est-ce qu'il a marqué? Il a marqué 94 points, quand même. C'est Sutil, que j'ai mis 9e, et que Iceman Air, lui, avait quand même il l'avait mis 6e, quand même.
Donc mais moi, Iceman Air, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, Romain, tu remplaces Iceman Air, t'es obligé de défendre ce qu'il a dit.
Alors, bah non, mais moi m'appelant Iceman Air, j'aime bien les Finlandais. Du coup, j'aime bien Sutil qui est allemand. Et donc, du coup, je l'ai
c'est logique. Au moins, j'ai mis 9e, parce que comme j'ai dit, hein, je suis parti du classement de base. Donc voilà, 9e. Bon, c'est pas...
Non, mais c'est vrai qu'avec une Force India, ils se débrouillent pas trop mal, quand même.
Oui. Et puis, pour le coup, parce que j'y pense soudainement, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça devant D-Restar.
Ouais. Ah, longtemps, oui. Après, il y a des incidents aussi fait qu'il n'est pas forcément.
Oui.
Puis c'est quand même le genre de circuit où il se réveille un peu Sutil. Hein. Monaco, Valence. On sait déjà qu'à Singapour, il sera bon. C'est des gens généralement des endroits où il se montre un petit peu plus à son avantage, comme il se montre plus à son avantage sous la pluie, par exemple. Voilà. Et puis là, il arrive sur un circuit où D-Resta ne connaissait pas. C'est un circuit urbain, c'est toujours compliqué. En plus, D-Resta n'a pas pu rouler vendredi parce que ils ont encore une fois eu cette merveilleuse idée de remplacer par le troisième pilote. Donc voilà, moi je reste quand même convaincu que cette année Sutil se fait marcher dessus par D-Resta.
Ouais.
Après il me fait un peu penser à Hetfeld dans le sens où il fait des choses bien, il fait des choses comme il peut, mais au final c'est toujours lui qui se fait avoir en fait.
Ouais.
Soit un peu comme Massa d'ailleurs, quand on voit le seul pilote qui a des ennuis dans les stands chez Ferrari, c'est Massa quoi, c'est pas... Enfin, moi, il me fait penser un peu à cette catégorie de pilote qui est malchanceux, en fait.
Ben voilà, cette catégorie que des espoirs non concrétisés, quoi. C'est vrai que Sutil, on sait, c'est un bon pilote, il mérite complètement sa place en Formule 1.
Ça fait plein de fois qu'on dit qu'il va aller dans d'autres équipes, et à noter que Lux, parce qu'il y a toujours cette affaire, apparemment, il y a eu un dépôt de plainte officiel, j'ai vu un article, il me semble, sur ça.
Oui, en Allemagne.
C'est bizarre, je le voyais pas comme ça non plus dessus, d'ailleurs, en dehors des paddocks.
Ouais. Allez, on va passer à la 8e place, avec encore un Allemand.
Ouais.
Mais ce n'est pas Vettel, faut pas déconner non plus. C'est Rosberg. Rosberg qui marque... Alors là, on arrive, c'est une partie du classement qui a été très serrée, vous allez voir. Rosberg a marqué 160 points. Alors, est-ce que tu l'as noté? On l'a tous les trois noté, puisque toi, Dino, on l'a mis 8e, et Iceman Air l'avait mis 7e.
Donc ça va, on te dira rien là pour le moment, Esmanel.
je dis oui. Non, mais aussi Rosberg, de ce côté-là, Rosberg, moi je suis d'accord, il a la bonne place en fait. Parce que finalement, ça c'était chaud. Enfin, c'est un autre peloton quoi. C'est pas les équipes de tête, c'est les équipes de milieu et.
Bah on avait même.
De toute façon, voilà.
Même en course, on a envie.
Ouais, il mérite quand même plus d'être positionné dans le top 10 que Schumacher, mais bon, il mérite pas non plus d'être dans le top 5, quoi. Donc, voilà, place logique.
Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, on essaie d'expliquer ce que c'est qu'une course à la Rosberg, là, ça n'est même pas une non plus, enfin, c'est...
Non.
Il est pas bien placé, il est juste à la place qu'il doit occuper, c'est-à-dire qu'il est, aujourd'hui, Mercedes est en performance, c'est la 4e force, et ben, il est au 4e rang de la hiérarchie, sur la grille, là, on l'a reculé d'une place parce qu'on en a sans doute promu un autre devant, mais voilà, il est là où ce qui est inquiétant c'est que pour le moment la fin de saison de Mercedes s'annonce un petit peu sur le même schéma que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a Mercedes qui se trouve un peu entre deux eaux, c'est-à-dire avec en ce moment Ferrari qui remonte sur McLaren et sur Red Bull, donc qui largue un petit peu comment ça s'appelle Mercedes, d'ailleurs le fait que Massa soit aux avant-postes en ce moment on est le témoignage, et puis on s'attend quand même à voir Renault qui recule un petit peu, donc j'ai un peu peur que sur la fin de saison on retrouve une Mercedes qui soit comme l'an dernier coincée entre les meilleurs et entre le milieu de peloton qu'on revoie des courses à la Rosberg, c'est-à-dire des courses où il sera bien placé ou peut-être il nous surprendra au classement mais où finalement il aura une course relativement tranquille. Là en dehors de l'attaque sur Button, on l'a plus vu après quoi. Donc.
Bah c'est vrai que là au classement Mercedes rejoint parce que il y a que 3 points d'écart avec Renault. La question c'est, j'ai presque envie de savoir de dire c'est comment va évoluer Renault. C'est est-ce que ça va baisser ce qui fait que les courbes vont s'inverser ou est-ce qu'on va avoir justement une opposition on va dire de je vais pas dire de deuxième mais de troisième division. Bon.
À mon avis, ils vont se reprendre. Ils vont se reprendre quand même. Mais bon.
Cette année, c'est vrai que c'est la troisième division.
Ah oui, c'est pour ça. C'est même pas la deuxième, c'est la troisième.
Enfin, disons que c'est la deuxième division, mais Red Bull, c'est la Champions League.
Voilà.
À eux tout seuls, c'est le Barcelone.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Je passe à la septième place ou vous voulez rajouter quelque chose sur Rosberg?
Non, passons.
Mais je t'avoue qu'à la limite, tu pourrais passer de place en place. J'ai pas grand chose à dire.
Ouais, mais bon. Hein.
Non, mais c'est vrai. Ouais, si justement,
pour comprendre cette semaine, pourquoi.
Bah, pour revenir justement sur ce qu'on, enfin, c'est ce qu'on disait quoi. Au final, il a la place qu'il doit occuper. Oui. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment il y est. Mais on l'a pas vu quoi. Comme Hedfeld, on l'a pas vu. Et finalement, ça résume bien le Grand Prix quoi.
Donc à la septième place, ce n'est pas un Allemand, mais il roule sur un moteur allemand. C'est déjà ça. Il a marqué 163 points. Donc, comme je vous ai dit, ça a été très serré dans ces eaux-là. C'est Jenson Button. Donc, qui pour le coup, il n'y a pas eu l'effet pneu, hein, mais alors pas du tout. Alors, notez, Dino, tu l'as mis cinquième. Moi, je l'ai mis, septième. Et Icemaner l'a carrément mis neuvième.
Ouais, c'est vrai, on l'a pas beaucoup. Enfin, le problème, c'est que la Mercedes a quand même bien mangé les pneus. Donc après, en plus, il est réputé pour être gentil et doux avec ses pneus, mais c'est vrai que là, du coup, on a vu c'est que la McLaren a eu vraiment des problèmes, quoi. Ouais.
Mais finalement, c'est ça le truc, c'est que en course, bon, j'ai mis Button, moi, dans mon classement, j'ai mis Button devant Hamilton. Pour la simple raison, c'est que Button a fait un superbe dépassement sur Rosberg, en freinage sans le DRS, etc. Donc voilà, je voulais un peu récompenser ça. Mais je pense que finalement, pendant la course, j'étais un peu critique envers ce que faisait Hamilton, où je me disais, mais il arrête pas de bouffer ses pneus, etc., etc. Il attaquait comme un damné alors qu'il était en train de bouffer ses pneus. J'avais envie de lui dire, mais ralentis un petit peu, roule moins vite. Je crois d'ailleurs que Lafitte lui a dit, roule moins vite. Et il sait d'économiser des pneus. Puis en même temps, quand on voit derrière comment Button a économisé ses pneus et qu'il a à peine fait un tour ou de plus qu'Hamilton, bah on a envie de dire finalement Hamilton il avait raison de bombarder dans les pneus. De toute façon la McLaren avec les pneus ce week-end c'était très mauvais.
C'était donc, très drôle d'ailleurs parce qu'à un moment je crois qu'il parlait de Button en disant est-ce qu'il va économiser ses pneus et genre peut-être 10 secondes après on le voit rentrer au stand on a fait, ça sera pas cette semaine.
Non, moi ce qui m'a fait rire c'est pas sur Button, c'est sur Hamilton aussi. Son ingénieur lui dit son ingénieur de piste lui dit ralenti pour économiser tes pneus et il lui répond je peux pas aller plus lentement là.
Mais oui, Lewis fait un effort.
Donc c'était pas mal aussi ça. D'ailleurs, c'est peut-être le seul moment où j'ai apprécié le Grand Prix.
Il fallait les chercher, les moments ce week-end. On va passer dans ce cas directement à la sixième place. Et là, on va peut-être parler un petit peu plus. Il a marqué 170 points. Que vraiment, ce milieu de tableau-là était très serré. Je peux vous dire que... je l'ai mis sixième. Dino, tu l'as mis septième. Icemaner l'avait carrément mis quatrième. Là, c'est vrai que c'est un peu haut, mais bon. C'est vrai qu'il a fait une belle remontée, enfin, quoique. C'est Alguer Suari, comme quoi, être à la place du con, ça ne veut pas forcément dire une mauvaise course.
Ouais, mais c'est pareil, je l'aurais mis dans le top 5, moi.
Ah ouais, carrément.
Ben ouais, parce que partir 18ème, faire, je crois qu'il a fait qu'un seul changement, il me semble, et quand même arriver dans le top, dans le top 10. Je trouve impressionnant. Après c'est peut-être aussi les circonstances de course qui fait qu'il est parti qu'il a peut-être pas été arrêté par le trafic, qu'il a pas eu de problème dans les stands, peut-être qu'il a eu la stratégie de course idéale aussi. Hein.
Si on regarde sur un tour par tour, il gagne quelques places au début, mais il est 15e ou 4e tour, c'est deux places en plus. Sinon, j'ai l'impression que c'est surtout sur les arrêts au stand, parce que vraiment sur la première salve, il passe il rentre dans les points.
C'est le premier de ceux qui a fait deux arrêts seulement et lui il est sorti en Q1, il a pu faire les deux premiers relais avec des pneus tendres neufs. Ce qui permet quand même de changer un peu les choses. Et d'ailleurs, il a fait des relais en tendre, je crois que son premier relais en tendre, il va jusqu'au 19e tour. Le deuxième relais, il fait plus de 20 tours avec, 22 23 tours et il met les médiums à peu près au même moment que Weber et Hamilton qui eux ont fait deux arrêts déjà avant ça alors que lui n'en avait fait qu'un. Donc voilà, la stratégie payante au milieu de peloton, à l'avant du peloton, c'était la stratégie un peu suiveuse avec trois arrêts. Mais au milieu de peloton, la stratégie payante, c'était deux arrêts et pas un arrêt comme ce qu'a fait Pérez, parce que Pérez a dit que en fin de course, d'abord avec les médiums, c'était pas terrible, et que finalement avec les tendres non plus, c'était pas meilleur, et que donc du coup, il aurait peut-être mieux valu faire deux arrêts plutôt qu'un seul. Mais là où c'est le plus montré, surtout avec Garcia, c'est que d'abord il est très critiqué. Il y a même eu des mots sur lui d'Helmut Marko qui ont été très durs. Quand Helmut Marko a dit qu'il était très bon au simulateur et lors des essais, mais que en course et en qualification il valait rien entre guillemets. Hein, je synthétise et j'exagère, mais grosso modo c'est ça. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'en course il s'est montré notamment en dépassant son coéquipier avec une certaine autorité. Voilà, donc c'est visuellement ça redonne confiance. Maintenant, faut peut-être pas non plus, comme il l'a dit aujourd'hui, en disant que ouais, il recommence à faire son rémé, quoi. Il recommence à un petit peu fanfaronner. Faut pas qu'il oublie que pour le moment, celui qui est sur le siège éjectable chez Toro Rosso, c'est lui, et que Helmut Marko l'a dans le pif, et que Helmut Marko a dit que de toute façon, pour le deuxième baquet Red Bull, ni Buemi ni Edgar Suarez n'avaient le profil. Donc voilà, je pense que pour le moment, faut qu'il continue de travailler comme il a fait l'an dernier. Ça lui a réussi, et voilà, faut qu'il continue sur cette voie-là, c'est très intéressant ce qu'il peut faire.
Oui.
Ouais. Non, mais je suis un peu plus optimiste quand même que Marko, Helmut Marko. Parce que c'est vrai que du coup, il est, moi, j'aime bien ce qu'il fait quand même à l'Ursary. Je trouve qu'il a quand même des pas trop mauvais résultats pour quelqu'un qui vient finalement pas de la GP2, qui vient pas de la F3. Enfin.
Son début de saison a été pas terrible. Et là, c'est vrai que depuis 2-3 courses, d'ailleurs, c'est la deuxième course de suite où il marque des points.
Maintenant, je pense qu'il faut qu'il commence à songer sa propre gueule. Et plus à viser le baquet Red Bull, mais à viser le baquet Sauber, le baquet, pourquoi pas Team Lotus, ou d'une écurie un peu plus en retrait. Il faut qu'il assure sa carrière en Formule 1. Parce qu'il est pas mauvais. Il est jeune et il est pas mauvais.
Ah, mais l'arrogance, c'est le luxe des meilleurs. C'est toujours connu. Être arrogant quand t'as des résultats moyens, bon, voilà. Je passe à la... Oh, on arrive déjà à la cinquième place.
Mais t'es à Valence, c'est normal.
Oui. Donc, à la cinquième place, un pilote Ferrari.
Non.
Et si.
Non, pas lui, non.
on pense deviner qui c'est quand même.
Ah oui, oui.
Vous pensiez quand même pas que c'était Alonso.
Ah non.
Ah bah si, je pensais à lui.
Moi, dès que tu me dis Ferrari, je pensais
non.
Et non, c'est plus, Massa.
Ah, c'est Massa, je le cherchais, j'étais en train de me dire. Je savais que ça commençait par un M.
Il est encore chez Ferrari.
Il a marqué 245 points. Dino, tu l'as quand même mis troisième. Tu l'as mis Shinji, enfin moi, je l'ai mis quatrième. Oui, c'est pas que je parle à la troisième personne, c'est que je lis, c'est pour ça, c'est tout. Et Icemaner l'a mis cinquième.
Bah, je l'aurais mis dans le top, moi je l'aurais mis quatrième.
Ouais, bah comme moi en fait.
Quatrième, parce que c'est vrai que ça fait quelques courses qu'on le voit.
Oui, il se réveille quoi. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'enfin on va revoir le.
Et il fait un putain de départ.
Ouais.
Il fait un super bon départ. Parce que bon.
Et il s'est pas laissé marcher sur les pieds quoi.
Ah non.
Alonso, devant, ils font pas un départ top, mais ils foirent pas tous leur départ. C'est vraiment Massa. La manière dont ils remontent sur Alonso, Hamilton et Weber, même en vitesse pure sur Vettel, la manière dont ils remontent, c'est Massa qui fait un super départ. C'est pas les autres qui se foirent. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il commence à faire un chef-d'œuvre et à la fin, il oublie un peu la finition et il se retrouve quatrième, ce qui lui coûte finalement la quatrième place à la fin de la course, plus de son problème de moyeu de roue là. Parce que on se dit s'il avait été un peu plus méchant sur le premier freinage, un peu plus agressif, il aurait été deuxième. Il se serait pas fait dépasser par Alonso ou il aurait pas maintenu Weber devant. Il aurait pu être deuxième. C'est ce qui manque à Massa, c'est ce petit truc. C'est, je pense qu'Alonso à la place, il finissait deuxième parce que il est plus agressif, parce qu'il fait plus peur. Massa, il suffit juste de donner un petit frein, tu sais qu'il va freiner parce que c'est un gentil. C'est terrible à dire, mais c'est vrai que si t'as pas un petit peu le vice dans la peau, tu fais peur à personne et les mecs autour de toi, ils le savent très bien. Ils savent très bien à qui ils ont affaire et que tu vas, ils savent comment tu vas réagir. Ils le connaissent, Massa. Ils savent que c'est pas un mauvais bourre, c'est un pilote très propre, voilà, qui est vraiment quelqu'un en plus de très respecté dans le paddock, voilà. Mais en ce moment, il a du mal à montrer de son agressivité, alors qu'il en a déjà montré par le passé. Mais là, en ce moment, il a du mal à le montrer. Même quand il fait des choses de bien, on a quand même des petits regrets parce qu'on se dit, il est pas pas à 100%, quoi.
C'est quand même pas mal pour sa confiance, hein. On a l'impression qu'il est un peu dans la même dynamique que le Canada, où déjà au Canada, on semblait le revoir. C'est pas mal. Après, en fait, ce qui serait formidable pour Ferrari, c'est qu'il soit comme ça, mais sur toute la saison.
Oui. Mmh. Bah, déjà, il arrive à l'être sur deux grands prix de suite, c'est bien.
C'est oui.
Même trois, parce que je crois qu'à Monaco, il a pas été mauvais non plus, donc.
Oui, voilà, il revient quand même un peu. Et puis après, ce qui est respectable, c'est qu'il a quand même un accident, pas trop. Enfin, c'était pas innocent, quoi. Là.
Oui.
Il a eu un bon accident et il s'est quand même remis. Enfin, moi, je sais pas comment j'aurais réagi à sa place, mais prendre ce qui s'est pris dans la tête, revenir quand même et être aussi performant qu'avant, voire limite plus. Enfin, je trouve ça déjà bien ce qu'il fait, quoi. Je pense qu'on va pouvoir attendre de voir ce que fait Kubica aussi quand il va revenir, mais faut le faire quand même. Donc,
Déjà être aussi performant qu'avant, quand il pense, finalement l'an dernier, il y a quasiment eu que l'Allemagne. Donc ça prend du temps quand même, hein. Mais enfin ça se comprend. Mais on a l'impression que c'est l'impression que les accidents finalement ils les vivent mieux qu'avant, dans le sens où c'est vrai qu'ils sont mieux sécurisés. Et puis voilà, il a quand même fallu 6-7 bons mois pour revoir une très bonne course de Massa. Et faut espérer que là ça soit pas ponctuel et que vraiment il recommence à être au même niveau qu'avant. Je vais passer à la quatrième place. À moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose.
Mark Webber.
Non mais Eismanner, depuis tout à l'heure on t'entend pas. Qu'est-ce que t'en penses, enfin, sincèrement, Eismanner, tu vois, depuis tout à l'heure t'es silencieux, tu commandes pas tes trucs. Là par exemple Massa, pourquoi tu l'as mis cinquième par exemple?
Je crois que tu es en train de prendre un bain là.
Merci Eismanner, c'était un commentaire effectivement très intéressant.
Nous très intéressant.
Et d'ailleurs nous pensons à toi, hein, qui a les boules en ce moment. Mais on pense à toi quand même.
Non. Massa avait marqué 245 points. Eh bien, le quatrième en a marqué 248. Là encore, ça s'est pas joué à grand chose. Et le quatrième du classement.
Oh, j'aurais dû le mettre plus bas, merde. J'ai été le dernier à voter en plus, j'aurais dû calculer.
Je l'ai mis cinquième, tu l'as mis sixième, Dino. Eismanner l'a mis, comment il l'a mis? Il l'a mis huitième. C'est l'autre pilote McLaren.
Et moi qui me trouvais méchant de mettre sixième. C'est incroyable.
Et oui, Hamilton. Puis bon, on l'a dit, hein, les McLaren n'étaient pas glorieux ce week-end. Bon, il a mieux fait que son coéquipier déjà, c'est déjà ça.
Ouais.
Non mais ouais, moi c'est pareil, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. c'est dommage qu'il soit pas battu plus avec... Enfin, je sais pas, pour moi, il a perdu ses places. Enfin, il a perdu ses places. Il a pas gagné de place. Ça c'est juste un instant, quoi.
Oui, c'est ça le pire, c'est que je pense que logiquement, il est cinquième. Il finit quatrième parce qu'il y a un problème sur la voiture de Massa quand on voit.
Oui, voilà.
D'ailleurs, que Massa le dit après la course, voilà, je perds 4 ou 5 secondes dans les stands, je finis 4 ou 5 secondes derrière Hamilton. Donc j'ai perdu l'occasion. Il dit même pas j'ai perdu l'occasion d'être devant Hamilton. Il dit j'ai perdu l'occasion de me battre pour la quatrième place avec Hamilton. Donc, lui, il voulait se battre avec lui. Moi, je pense qu'il aurait même pu être devant.
Mais il est trop gentil, Massa.
Mais Hamilton, en même temps, aussi, ce qui est bien, c'est qu'il a pu faire une course propre. Finalement, c'est peut-être une chance d'avoir eu ces conditions avec la voiture qui fonctionnait pas bien. Il a eu pu avoir une course propre sans véritablement être gêné parce que les trois de devant sont partis, il les a jamais revus. Il a pas été véritablement gêné derrière. Il a fait un dépassement sur Schumacher, je crois, en des courses. Donc voilà, ouais, Schumacher, Rosberg, je sais. Donc voilà, il a fait une course rassurante, il est quatrième, il n'y a pas eu de problème. Je pense que ça peut être bon aussi pour lui, pour le moral, se dire, voilà, la machine repart. Au moins, il a mis une course d'écart entre les deux précédentes courses. Et je pense qu'à Silverstone, ça sera important.
Non, oui, bon là, il a assuré, hein. Quoi. Oui. Allez, dans ce cas-là, on va pas tarder. On va passer au podium.
Qui ne contient, lui, que trois places.
Oui, le podium du top 10 ne contient que trois places. Mais il a un goût beaucoup de Red Bull cette année. C'est surtout ça le problème.
Oh, bah non. Même là, il est encore plus Red Bull.
Oui, voilà.
Ouais.
À la troisième place.
Non, c'est sur le mot Red qu'il faut s'attarder.
Ah.
Ça y est, il vient de comprendre.
Dit-il en fan de Ferrari.
Eh bien, à la troisième place, ce n'est pas une Ferrari. Donc forcément, c'est une Red Bull.
Et c'est Vettel.
Mais bien sûr que non. C'est Webber avec...
Pas bien sûr que non, parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui seraient tentées de mettre Vettel 8 ou 9e.
Ben, c'est vrai, moi, c'est déjà arrivé.
Moi, pareil, hein, moi, c'est... Ouais, ça m'arriverait, hein, c'est pas...
C'est donc toi.
Non, pas, peut-être pas ces eaux-là, mais même histoire de dire 5e, 6e, voilà... Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense qu'il, certes, il pilote bien, certes, il fait pas d'erreur, mais voilà, quoi, c'est tout.
Bah, c'est-à-dire que malheureusement, il est pas remis en valeur.
Voilà, il y a pas de situation de provocation, de dépassement, donc forcément.
Oui,
On peut pas savoir ce qu'il vaut, quoi, donc autant valoriser ceux dont on voit les actions en piste.
Donc, Weber, que Dino, tu as mis quatrième, que moi et Aismener, on a mis troisième. Bon. J'ai envie de dire, son fait marquant, c'est de s'être fait doubler par Alonso.
Oui. Parce qu'en plus, il a même pas redoublé après, parce qu'il a gagné la place dans les stands, et il a perdu dans les stands. Donc,
voilà.
C'est une vraie course de Formule 1 digne de l'an dernier, ça.
Ah oui.
Enfin, il y a deux ans.
Ouais, parce que même l'an dernier, on se faisait pas chier autant, quand même.
Non, ouais.
Non. C'est fou, hein, de ne rien avoir à dire, quand même, sur un troisième. Oh, voilà.
Mais il a fait une bonne course. Enfin, il a fait dans l'ensemble un bon week-end. Mais ce qui est terrible pour lui, c'est qu'à chaque fois on regarde, il est derrière Vettel et c'est terrible pour lui parce que il est pas mauvais. Je pense qu'il est peut-être même au même niveau, si ce n'est meilleur que l'an dernier. Mais il a à côté de lui un mec qui, aujourd'hui, est galvanisé par son titre, il a une écurie qui tourne complètement autour de lui parce que c'est champion du monde en titre. Voilà, qui a tout qui lui réussit. C'est cruel pour Marc.
Ouais, après c'est vrai que du coup faut aussi voir qu'il est plus âgé, donc après ça excuse pas des performances, mais bon finalement pour quelqu'un qui moi personnellement je m'attendais pas à voir Marc Weber se battre pour le titre, parce que c'est quand même le cas, il peut quand même se battre pour le titre même si on sait que Vettel a beaucoup d'avance mais arriver quand même à se battre pour le titre là où il est maintenant, je le voyais pas faire ça il y a 5-10 ans, quoi. Donc bon, c'est quand même une bonne performance dans l'absolu, même si on peut pas dire que voilà à côté de Vettel ce soit le meilleur.
C'est un peu l'exemple type du mec qui a une bonne voiture entre les mains et qui sait s'en servir, mais qui malheureusement est tombé sur un mec qui non seulement a une bonne voiture, mais a un talent exceptionnel pour sa génération, quoi.
Oui.
Ouais, voilà.
Weber passera toujours pour un petit, même s'il fait très bien. Mais ça sera toujours petit.
Après, c'est pareil. Enfin, moi, je sais, c'est qu'à chaque fois, il me donne des faux espoirs. C'est que, par exemple, en qualification, il va signer le meilleur temps. Et finalement, derrière, c'est Vettel qui le reprend, quoi. Donc, alors qu'il semblait quand même avoir signé un bon temps.
Alors là, apparemment, il a eu un problème sur la grille de départ où ils ont dû vidanger des freins ou un truc dans le genre.
De toute façon, c'est toujours lui qui a toujours les problèmes.
Voilà, c'est pareil, c'est comme Massa, quoi. C'est toujours les numéros 2 qui ont les problèmes, comme par hasard. Mais, enfin,
non, c'était pas le numéro 2 BBR.
Oui, mais voilà, et puis on parle même pas du Shrek, quoi. Donc, oui. Kers, on sait jamais s'il est long, on sait jamais s'il va marcher, et on sait qu'il marchera jamais sur VBR, donc, c'est un peu dépitant pour lui, quoi.
Ah oui. C'est quand même ça, troisième place cette saison. Et oui, il a fait une seconde place. Parce que c'est quand même le deuxième meilleur résultat en points cette semaine pour Red Bull, cette saison.
Oui.
On fait un doublé 1 et 2. Et là, 1 et 3, on pourrait croire que ça, c'est arrivé souvent, mais pas tant que ça.
Mais ils ont quand même fait, c'est quand même l'équipe qui marque le plus de points, sur toutes les courses, sauf en Chine. Il y a que en Chine où McLaren a marqué plus de points que Red Bull, sinon c'est eux qui font les meilleurs points à chaque fois, quoi.
Et c'est clair, pour le moment, ils dominent la saison, enfin voilà, il y a là-dessus, il n'y a pas de contestation possible, quoi. L'écurie domine la saison avec un pilote qui domine la saison et un deuxième qui, on le voit encore en qualif, hein, la deuxième place de Weber, c'est quasiment la victoire assurée pour Vettel, puisque dès qu'il y a les deux Red Bull en première ligne, ça devient très compliqué pour ceux qui sont derrière.
Puis il n'y a jamais la même personne en deuxième place, hein. Si tu regardes, Button, il a fait une seconde place, Weber, il en fait une, Hamilton, il en fait deux, et Alonso, il en fait deux. C'est tout bénef, hein. Allez, on va passer à la deuxième place. Et c'est un pilote.
Ah, rouge.
C'est un pilote Red Bull. Non, merde.
Ah, je suis plus là. Un moment, j'y ai cru.
C'est Alonso.
Non.
Ah, ça, c'est les supporters espagnols qui ont voté.
Ah, bah, il aurait dû y avoir plus de supporters espagnols.
Pourquoi?
Pourquoi? Alonso.
C'est pas faux d'avoir tout fait.
En effet, tu as mis premier. Qu'Aismaner a mis premier.
Non, Aismaner, mais. Aismaner.
J'ai mis entre guillemets seulement deuxième.
Pourquoi n'es-tu pas là, Aismaner?
Ah, mais pour le coup, je l'aurais mis premier aussi, en fait.
Ah, merci Romain.
Non, mais c'est vrai que du coup, il se débrouille bien avec la monoplace qu'il a, quoi.
Mm. Ouais.
Mais c'est pareil, je pense que pour s'arrêter là, c'est.
Un point. Ah, bah oui. Bah, j'ai envie de dire un peu comme Weber, son fait marquant, c'est d'avoir doublé Weber.
Ouais.
Après, si, on peut s'enthousiasmer pour lui de ne pas avoir eu de problème dans les stands, de ne pas avoir percuté Petrov, de pas...
Il y a quand même un bon résultat global des Ferrari, faut le dire.
Oui, c'est vrai. Mm. Si on regarde le classement par équipe, au final, Ferrari réalise leur meilleur
week-end depuis le début de saison. Ouais.
Meilleur week-end, hein.
28 points, alors qu'ils en ont fait 18 au maximum. Donc là, il y a quand même 10 points de plus que d'habitude, quoi. Donc c'est plutôt conséquent.
Bah forcément, comme Massa est là.
Ouais, voilà, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. Ouais. C'est vrai qu'Alonso est assez présent depuis le début de l'année, du coup, il manquait Massa, quoi.
Ouais.
Mais il est toujours là. Enfin, c'est. Il...
C'est quoi dans dimanche et fin, c'est ce que je crois, c'est Franck Lagorce disait. C'est alors, s'il y a un pilote tout le temps là, c'est Alonso. Je veux dire, tu peux jamais dire oui, il a été un petit peu mou là ce week-end. Non, quand il est un peu mou, c'est que la voiture marche pas. Hein. Parce que alors.
Ouais, il est toujours à fond, ouais, c'est vrai.
Il est toujours à fond.
Non, mais on le voyait très bien quand il était chez Renault, parce que finalement, même avec une monoplace qui était pas forcément dans le top 3 des voitures, il arrivait à gagner à la fin de l'année, il remportait des...
Il fait vraiment partie de ces immenses champions qui sont capables vraiment de tirer vers le haut à la fois une équipe et une voiture.
Mais en même temps, enfin, c'est, je pense aussi que si tu ne l'as pas vu rouler dans une équipe que tu tiens, pour être fan de Ferrari, je m'en cache pas. Je vois vraiment le travail qu'il fait chez Ferrari. Bien évidemment, je suis du coup beaucoup plus attentif à ses déclarations parce que c'est un pilote Ferrari. Je suis plus attentif à ce qu'il fait avec l'écurie et tout. Et c'est vrai que c'est un moteur pour une écurie qui est incroyable, même si c'est une pression énorme et que les mecs le savent que Alonso va rien leur cacher, que il va leur gueuler dessus, il va être peut-être parfois méchant, grande gueule et compagnie, mais c'est un moteur formidable, quoi. C'est n'importe qui, même malgré son mauvais caractère, n'importe qui voudrait l'avoir dans son écurie, parce que c'est important d'avoir un pilote qui se défonce autant et qui pousse autant son écurie dans ses retranchements. Il y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Moi, j'en vois que trois. Il y a lui, il y a Hamilton. Et il y a Vettel, il y a peut-être Button, hein, qui durcit un peu son discours envers McLaren en ce moment. Mais c'est vrai que quand on voit par exemple Vettel qui, quand il gagne cette année à je sais plus quel grand prix, dit juste derrière la radio, oui attention les gars, on a gagné mais c'est pas fini, il va falloir encore travailler, etc. On a 15 jours pour se préparer. Le mec qui vient de gagner, il est déjà en train de mettre la pression sur l'équipe pour la prochaine course. C'est aussi ça qui fait des grands champions, c'est que c'est des mecs qui ont des caractères incroyables et qui, c'est impressionnant à voir et à vivre en tant que fan d'une écurie. C'est impressionnant de voir un pilote comme ça débarquer. Surtout, Eisenmanner est pas là pour le défendre, mais surtout quand t'arrives avec juste derrière Kimi Raikkonen. Qui était un profil tout à fait contraire.
Ah oui, c'est
absolument génial et talentueux ce pilote, mais qui a un profil totalement contraire et qui n'avait pas le même comportement avec l'équipe. Bah tu vois, avec un mec qui, c'est pas qu'il est attaché à l'équipe, mais c'est qu'il a compris complètement que l'intérêt de l'équipe c'était son intérêt et vice versa, et que donc bah il pousse l'équipe dans ses retranchements.
Bon, est-ce que c'est forcément bien de voir Ferrari dans le top 5? Je sais pas, hein.
Je vais le tuer, Shinji. Je vais le tuer.
Non, mais enfin moi c'est pareil, j'étais supporter de Renault à l'époque, enfin je suis supporter de Renault d'ailleurs, mais
ça n'existe plus Renault.
par conséquent, je supporte Lotus Renault et Red Bull Renault. Donc au moins je suis sûr de gagner, moi.
Oui,
Alonso ou pas Alonso.
Bah, il y aura du sang ce soir.
Non, mais du coup, c'est vrai que le voyant quand il était chez Renault, c'est vrai que bah Fisichella, Trulli, Petrov, Pérez, je sais même plus, Piquet Junior. Enfin voilà, ils ont tous fait pas le figure par rapport à Alonso, quoi. Et c'est un peu ce qui va, enfin à mon avis, ce qui peut se passer avec Vettel chez Red Bull. Peu importe le coéquipier qu'il va avoir, il y a de fortes chances que Vettel prenne le dessus.
Et puis là, il va être double champion du monde. À part chez McLaren, où les doubles champions du monde ont un statut particulier, surtout par rapport aux débutants. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est aussi des mecs, à un moment donné, c'est des intimidateurs. Oui, c'est dans. c'est un pilote en NASCAR qui s'appelait Dale Earnhardt, qui était un intimidateur. Il avait une voiture noire. Quand il arrivait dans les rétroviseurs, les mecs le disaient. Enfin, lui, quand on arrivait, on savait très bien qu'il fallait pas plaisanter avec lui. Et Alonso fait partie de ce genre de mec. Tu sais, quand il arrive, que t'as pas envie de plaisanter avec lui parce qu'il va t'en faire bouffer des ronds de chapeau. C'est pareil pour Vettel, c'est pareil pour Hamilton. Voilà, c'est des mecs, ils sont devenus des intimidateurs.
Ouais, mais de toute façon,
c'est très rare quand tu vois arriver Vettel dans ton rétro. Mais bon.
Si un jour Vettel devait quitter Red Bull pour aller chez Ferrari, on sait jamais.
Oh, vous avez de l'espoir.
Non, mais on sait jamais.
Excusez-moi, j'aurais pas dû rigoler.
Non, mais
on rigolera moins.
On pisse tous dans notre froc, je veux dire. Alonso Vettel chez Ferrari.
Ah bah, oui. Ah bah non, mais moi voilà, c'est ce qui s'est passé chez McLaren avec Hamilton, hein.
Ah oui, voilà.
D'ailleurs, on a vu qui c'est qui a pris le dessus.
C'est à cette époque-là, il n'était pas encore fan d'Alonso. Faut le rappeler.
Oui. Ah bah, non, moi, oui, voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, je suis fan de Ferrari. Moi, j'ai le phénomène de, je regarde un mec avec un blouson rouge, et voilà, je deviens.
En 2007, pour lui, Alonso, c'était un connard, hein, faut le dire.
Oui. Ah, mais, pourtant, j'étais supporter d'Alonso, parce qu'il venait juste de quitter Renault. Enfin, non, quoi, que du coup, je supportais plus. Mais au final, non, je supportais Hamilton, quoi. Parce que c'est vrai qu'il était arrogant, Hamilton faisait le petit prince à côté, quoi.
Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que moi quand on c'est aussi ce qui me fait toujours rire, moi, quand on parle de pilotage et compagnie, que j'en entends qui parle de sens de l'attaque et compagnie, moi je parle du principe que c'est surtout le caractère et la personnalité des pilotes qui fait une grande différence, et que si tout simplement à la base tu n'es pas ouvert à un caractère ou une personnalité, tu verras le pilote d'une manière totalement différente.
Allez, puisqu'on parle de Vettel, bah forcément il est arrivé premier avec 567 points.
Ah, mais je croyais que c'était Grosjean, moi.
Et là, vous êtes limite à côté du drive-through quand même, hein, parce que c'est fini, le championnat de Formule 1, c'est fini. Mais vous avez entre les mains la possibilité de rendre le championnat du SAV de la F1 un peu intéressant, hein, en mettant Vettel deuxième ou troisième. Et vous ne le faites pas!
Le classement SAV F1 est plus serré que l'autre classement. Hein.
Oui, mais là, il pourrait encore l'être plus s'il avait mis Alonso premier. Hein?
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, en parlant de classement serré, il y a aussi le classement de régularité, qui est bien serré aussi.
Non, Vettel, qui fait encore. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une course parfaite?
Ouais, bah, dans le sens où elle est sans incident.
Voilà, oui.
Pourquoi ne pas le dire, quoi?
Et j'ai toujours. C'est encore terrible parce que, même s'il dit qu'il a attaqué, qu'il s'est fait plaisir, j'ai toujours quand même l'impression qu'il s'est quand même ménagé une petite marge de sécurité.
Et comme à chaque fois.
Voilà, j'ai toujours l'impression que, bah, il a claqué au début et qu'à un moment donné, bah, il est rentré dans un rythme de croisière. Qui reste quand même très élevé, mais dans un rythme de croisière qui, voilà, il a pas non plus pris 15 ou 20 secondes, quoi. Moi, j'aimerais le voir cette année tuer à un moment donné la concurrence, prendre le départ et prendre 20 ou 30 secondes d'avance. Même si
il finit quoi? Il finit un peu moins de 11 secondes devant Alonso, au final.
On le sent capable de le faire et voilà, ça dépasse pas les 10 secondes. Enfin,
c'est vrai qu'au début de saison, parce que ça, j'en suis rappelé, Red Bull, il y avait une raison derrière ça, c'est qu'apparemment ils voulaient visiblement sur 4-5 grands prix économiser un moteur pour la fin de saison.
Mais je pense que c'est leur stratégie. Jamais.
Ouais. Alors est-ce qu'ils sont toujours sur ce principe, parce qu'ils disent après tout, ils ont peut-être réussi à en économiser un, si on peut en économiser deux, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, la saison est très longue. Ils sont peut-être toujours là-dessus. Et c'est vrai qu'après tout, ils se disent pourquoi s'emmerder à risquer alors que on peut gérer très bien. Voilà, il finit avec 11 secondes d'avance, les doigts dans le nez, sans souci.
Non, mais c'est ça, c'est peut-être justement ça qui fait qu'il mérite cette première place. C'est que il a l'intelligence de regarder plus tard sur ce qui va se passer plus tard, de prévoir justement les incidents qui peut lui arriver. Et au final. Bah, c'est ce qui va aussi tuer le spectacle dans la fin de la saison, c'est que bah là où les autres vont être obligés de peut-être de changer de moteur, même si pour l'instant il n'y a aucune casse, bah peut-être que finalement c'est lui qui va sortir du lot encore plus et en forçant sur les moteurs et du coup en mettant 40 secondes au second, quoi. Parce que là c'est vrai qu'il force pas sur les moteurs, il force pas sur les pneus et que sans forcer bah il arrive quand même à gérer sa course.
C'est là où on a l'impression que tout est sous contrôle, en fait. C'est peut-être là où c'est le plus énervant, quoi. C'est qu'on a vraiment l'impression que tout est sous contrôle.
Finalement, c'est ça la réussite. C'est le fait de dire qu'on n'est pas. Enfin, voilà, c'est sans se démarquer, sans créer de vagues. Voilà, c'est toi le premier. Donc,
mais c'est, enfin, ça force l'admiration, quoi. Parce que
les autres doivent être à 110% pour essayer de faire limite aussi bien que lui. Et lui, il va à 95 et c'est nickel.
Voilà. Ouais, vas-y, je t'en prie.
Je crois que c'est Franck Lagorce qui le disait dans Dimanche F1. On a aussi l'impression à un moment donné de regarder. Je pense qu'il y a un moment donné où une domination nous énerve, mais à un moment donné, il y a aussi une telle maîtrise du sujet, une telle comme Ferrari au début des années 2000, quoi. Il y avait une telle maîtrise, une telle aisance, tout était sous contrôle, tout fonctionnait bien, que tout simplement, on est admiratif devant ce qu'ils font, quoi. Parce que t'es obligé de te dire, voilà, ce qu'on voit, c'est l'excellence. En ce moment, c'est l'excellence. Il y a que eux qui font ça. Et c'est vrai, quand on regarde
c'est même la quasi perfection.
Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la F1, je suis pas sûr, hein, j'ai entendu ça rapidement, que un pilote finit aux deux premières places minimum des huit premiers grands prix.
Oui, il fait 23 points de moyenne là cette saison.
Voilà, il fait 23,5 de moyenne et je crois que jamais un pilote n'avait fait 6 victoires et 2 deuxième place en 8 courses dès le début de saison. Voilà, c'est inédit. Voilà.
Alors, mais là pour l'instant, ça, ça... derrière lui, il y a que Button et Weber sont les seuls à avoir marqué des points à chaque course.
Ouais.
Ouais. Parce que Hamilton et Alonso ont déjà une bulle au Canada. Allez, on va passer au classement. Et bien évidemment, dans le classement du SAV, Vettel est devant, mais j'ai envie de dire, il n'a que 160 points. Button est deuxième, 112 points, et Weber, 103 points. À noter que Hamilton en a 96 et Alonso, 95. Au classement constructeur, Red Bull est devant, 263 points, McLaren, 208 points, et Ferrari, 135. Dans l'autre classement, et là, ça fait mal, ça fait très mal, Sébastien Vettel a 186 points,
ouais, Button...
Ouais, Button et Weber ont le même nombre de points, 109 points, mais Button a une victoire, donc il est devant en deuxième place. À noter que Hamilton a 97 points et Alonso en a 87. Alors à noter quand même que Vettel a donc plus de 75 points d'avance sur Button, ce qui signifie que on enregistre, hein, on est le 28 juin, Vettel sera donc en tête du championnat au moins jusqu'au 28 août. C'est-à-dire dans 2 mois.
S'il abandonnait chaque Grand Prix.
Ouais. S'il abandonne chaque Grand Prix, bien évidemment.
Sachant que déjà, sans être épicier, les calculettes sont sorties et que déjà au Nürburgring, s'il continue sur cette lancée, il pourrait être sacré, quoi.
Puis même là, c'est-à-dire que même maintenant, à partir d'aujourd'hui, avec 77 points d'avance, il reste 11 Grands Prix, il pourrait se contenter de faire deuxième à chaque fois et quand même être champion.
Alors ça, j'ai pas vérifié, mais alors c'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est dépitant, quoi. C'est pas là. Et c'est pour ça aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que Hamilton et Alonso sont peut-être plus sceptiques sur le titre, quoi. Ce qui est dommage pour nous.
Ouais, même s'il est titré au Nürburgring en Allemagne, ça sera le 24 juillet. Donc il ne battrait pas le record en date de Schumi, parce que lui, ça avait été le 21 juillet.
Ouais.
Mais là, en fait, au moins de Grand Prix aussi.
Ah ouais, en moins de Grand Prix par contre, oui. Oui, parce que c'était plus, ça devait être genre 12 ou 13 sur 17. Alors que là, ça serait 10 sur 19.
Mais on a même envie de se dire, à la limite, maintenant, vu que ça semble à peu près joué, qu'il soit titré le plus vite possible.
Oui.
Histoire que la fin de saison, moi, à la limite.
Si on peut avoir des courses complètement débridées.
Vu que les titres sont à peu près assurés, que Red Bull se mette à prendre un peu plus de risques et que les courses peut-être soient un peu plus ouvertes.
De toute façon, là, au rythme où il va, même s'il devait avoir une petite baisse, hein, on sait jamais, oui, il sera sans doute titré en Europe, hein.
Là, le truc, c'est qu'on voit mal, en dehors des buzzers soufflés, mais tout le monde va aussi être pénalisé, on voit mal vraiment avec l'avance qu'ils ont aujourd'hui, comment est-ce que Red Bull pourrait perdre ce championnat. Parce que même s'ils vont peut-être payer un peu plus que les autres, ils vont perdre quoi, 2 dixièmes, 3 dixièmes de plus. Et aujourd'hui, ils ont, sur Ferrari, ils ont 8 dixièmes d'avance. Sur McLaren, ils ont, 5 dixièmes d'avance. Ils seront toujours devant. Quoi qu'il arrive, ils seront toujours devant. Et ils ont déjà 6 victoires à leur actif, 2 deuxième places. Voilà. Même si maintenant ils font plus de victoires à chaque Grand Prix, ils font quand même 2, 3, 4 victoires. Et ça sera largement suffisant pour que Vettel soit champion.
Bah, justement, je veux pas jeter la première pierre, mais je serais prêt à parier que ça va se jouer dans les 3 dernières courses au moins. Que du coup Red Bull va perdre plus en performance que ce qu'on pense. Mais c'est vrai que ça m'étonnerait que la FIA laisse faire une saison remportée comme ça à la mi-saison d'ailleurs.
Sinon, donc chez les constructeurs, Red Bull est devant, hein, 295 points, devant McLaren 206 et Ferrari 129. Un peu con, c'est pareil, mais c'est déjà très distancé. Par exemple, on voit que Ferrari est un peu entre deux eaux quasiment. Alors, tu me diras McLaren aussi.
Oui.
Sur ce, on va passer au fait marquant.
Ouais.
T'es sûr
que ça va être génial, hein, cette semaine.
Ah, j'ai du bol.
C'est rapide, je pense.
Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix du Canada 2011? Vous avez été 52 à voter, on vous remercie. Est arrivé 3e avec 4 votes. Et je crois que c'était toi, Dino, qui...
Oui, c'était moi.
Oui. Et je crois que déjà, quand tu l'avais noté, on disait que ça allait pas marcher.
Oui, mais ça n'était pas fait exprès. Même si j'étais pas voté pour.
Encore une fois.
Ouais, mais à chaque fois j'ai un choix de merde, j'ai pas rien.
Bah là tu vas avoir un bon choix. C'est pas de bol, hein, c'est le Grand Prix qui est de merde cette semaine.
Ouais, mais en même temps, si je fais bien mon premier choix, même si j'ai pas trop d'idées de ce que je vais choisir, vous allez t'emmerder après pour trouver des trucs.
Donc l'occasion ratée de Ferrari, 7,69%, est arrivée deuxième avec 15 votes, l'interruption de course historique, 28,85%, ça c'était moi qui l'avais dit, et 33 votes. La magnifique victoire de Button, 63,46% quand même.
Alors, je mettrai Alonso et Hamilton qui ne se font plus d'illusions pour le titre. Même si je pense qu'il y a beaucoup d'intox dans leurs déclarations.
Qui est drôle, parce qu'il y a sans doute beaucoup de réalité en réalité.
Oui.
En réalité.
Oui. Je vais dire... le DRS et le Kers qui ne font pas de merveilles.
Le DRS et le Kers qui ne se font pas d'illusions pour le titre. Eux non plus.
Ça me donne tout espoir.
Qui ne font aucune merveille à Valence.
C'est bien, c'est que cette semaine, vous avez le choix entre des énoncés qui sont courts.
Oui, parce que c'est vrai que finalement, même le DRS, alors qu'il y avait ces fameuses deux lignes droites,
Alors que j'ai regardé les statistiques sur clipdiapex.com.
Ouais.
Et ils ont dénombré quand même 41 dépassements à Valence.
Ah,
c'est
pas
mieux si je me trompe que à Monaco et que à Melbourne en début de saison. Et si on était en 2010, ça les aurait placés à peu près au quatrième rang. Et même au deuxième rang des courses sur le sec.
Alors toi, Romain, c'est pas évident.
Moi, ce qui me marquerait justement, c'est ce manque d'inactivité en fait. Donc, quel est le fait marquant du Grand Prix ce manque, cette impression de manque d'action. L'impression du manque d'action.
L'impression de manque d'action.
Ça c'est bien, ça a pas marqué de points. C'est mal formulé.
C'est méchant.
Mais c'est vrai, j'ai pensé, j'aurais dû dire le Grand Prix chiant, merde, j'étais con.
Oh, ça c'est méchant.
Oui, mais ça aurait cartonné.
Faire du fait marquant, le fait qu'il n'y ait pas de fait marquant, c'est pas mal ça.
Oui.
Oui, le fait qu'il n'y ait pas de fait marquant.
Oui, il n'y a pas de fait marquant en fait.
Voilà. Donc, qui est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Europe 2011? Alonso et Hamilton qui ne se font plus d'illusions pour le titre, l'impression de manque d'action ou le DRS et le Kers qui ne font pas de merveilles à Valence?
C'est Julien, vient de se rendre compte qu'il fallait qu'il fasse ses drive-thru maintenant.
Eh oui!
Ouais. Bon, allez, si tu veux, t'as une dispense pour cette semaine, Shinji.
Non, mais je vais quand même en donner un par principe, mais il va être très facile.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Je vais être lâche, il va être très facile, vous y pensez tous. Hein, forcément, c'est contre ce circuit. Enfin, on voit bien qu'il y a. Alors c'est vrai que bon, la première année, il n'y avait pas de dépassement. On disait non, mais c'est la première année. Hein, faut voir. Hein, sur une course, on peut pas décider. Puis il y a eu la deuxième. Puis il y a eu la troisième. Puis alors là, quand même, il y avait le DRS, il y a le Kers, et voilà.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et si je devais en faire un, j'aurais fait le même drive-thru.
C'est voilà.
Un peu facile soit-il.
Oui, c'est vrai, hein, il est facile, mais c'est vrai que on constate quoi. C'est même avec le DRS, même avec le Kers, ça n'a pas été une course extrêmement passionnante.
Et puis la course nous a pas non plus, enfin le week-end nous a pas non plus donné d'autres opportunités de drive-thru.
Oui, voilà. Je sais pas, est-ce qu'il faut peut-être pas modifier un peu. Il y a des choses intéressantes sur le circuit, mais parce que c'est vrai j'en ai déjà parlé, mais on a fait beaucoup de choses sur les voitures, notamment pour aider au dépassement, mais tu te rends compte que finalement, sur les circuits en eux-mêmes, là, par contre, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, et que, bon, ben... Enfin, peut-être un jour s'y mettre et y réfléchir. Alors, il se dit qu'apparemment, sur les nouveaux circuits, ils vont essayer de faire en sorte quand même de mettre en valeur et de favoriser l'arrivée de circuits qui, potentiellement, proposent des parties intéressantes. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de course dessus, on peut difficilement se faire une opinion. Non, je sais pas.
Maintenant, je pense vraiment que faut aussi accepter que c'est un circuit urbain et qu'il faut arrêter d'attendre des circuits urbains que ça devienne des circuits où on peut dépasser à tirer les rigots. C'est pas du jeu. Ce qui est un peu embêtant, c'est que il y a pas ce, contrairement à Monaco, il y a ce côté en plus, côté histoire, le côté c'est terrible d'être comparé à Monaco quand même. C'est quand même 60 ans d'histoire.
Non, mais tu vois, moi par exemple, je préfère Singapour. Mais finalement.
Parce que Singapour, il y a aussi un charme, il y a le charme de la nuit, il y a le charme de la ville qui est derrière, alors que là, on nous vend quelque chose qui est en bord de mer, le Monaco espagnol. Oui, enfin, on est quand même avec vue sur un port industriel qui passe entre des bâtiments, des bateaux. C'est pas très sexy, hein.
J'ai déjà dû le dire, mais peignez les murs, parce que ces murs blancs, ça paraît con, hein, ça va pas changer grand-chose à la course, mais sur la monotonie du décor, ces murs tout blancs, là... Alors que finalement, à Singapour aussi, hein, ils sont tout blancs, hein, mais voilà.
Ils sont noirs, on les voit pas la nuit. Je suis d'accord. Moi, après, si je devais faire un drive-thru, toujours dans le même principe et toujours puisqu'on a les comparaisons avec Monaco, c'est le samedi en fait, le drapeau rouge en qualification, on va dire à cause des commissaires, mais on va dire pour des commissaires qui mettent énormément de temps à enlever une monoplace qui à Monaco aurait pris 2 minutes quoi.
Et pourtant, enfin, je crois que Valence fait partie de ces circuits qui
est quand même bien équipé.
Non, ouais. Est bien équipé. Et puis, je crois que comme justement, c'est un circuit urbain et tout ça, je crois qu'ils ont demandé en conseil aux gens de Monaco, quoi.
Oui, il me semble que c'est ce qu'ils disaient l'an dernier, qu'ils avaient été plus ou moins conseillés par Monaco. Mais après, bon, c'est pareil. Jacques Lafitte, pendant le Grand Prix, a précisé que, enfin, d'après lui, il faudrait qu'ils aillent se former auprès des commissaires de Monaco. Donc. Donc pourquoi pas directement mettre les commissaires de Monaco à Valencia?
C'est ça qui est toujours cruel aussi, c'est-à-dire que à chaque fois on compare à Monaco, c'est terrible pour les circuits. À chaque fois d'être comparé à Monaco. Là on dit on devrait mettre les commissaires de Monaco, mais c'est pas non plus une solution que de dire bah ceux-là ils fonctionnent pas bien, mettons directement sur Monaco. Faisons les former, mais vraiment prenons le risque une année d'aller à Monaco et de se dire voilà on va mélanger tout simplement à Monaco, il y aura mi-commissaire Monaco, mi-commissaire de Valence, et les mecs vont apprendre ce que c'est à Monaco. Et ils vont vraiment apprendre sur le tas.
Si on en revient, la comparaison n'est pas facile, c'est sûr.
Ben voilà.
Oui.
Ça te fait drôle, trop.
Comme quoi.
C'est une émission bizarre aujourd'hui.
Oui.
Bah, à 3.
C'est normal. Tout.
À 3, c'est toujours bizarre. À 3, c'est quand c'est dans la ville de 3 que c'est bizarre.
Ah, oh, j'ai pensé à la même chose. Oh, je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas là.
On va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Donc le concours, on vous rappelle que le vainqueur de la semaine, enfin d'il y a 15 jours, Steve, nous avait envoyé une question avec sa bonne réponse, qui était la question suivante. Quel pilote a remporté le premier Grand Prix d'Europe comptant pour le championnat du monde de Formule 1? Et comme si, par exemple, c'était déjà pas suffisamment compliqué de faire comprendre aux nouveaux auditeurs comment fonctionne ce concours, il y a des auditeurs qui se sont ligués pour rendre les questions vraiment très compliquées en elles-mêmes, puisqu'il y a des pièges. Alors, la réponse chez Nuzic, quelle est-elle?
Alors, c'est vrai que le premier Grand Prix d'Europe, il date de la fin des années 70, si je me souviens bien, tant que je retrouve.
83.
83, je pensais que c'était un peu plus vieux.
T'as pas lu l'avant-goût, Shinji? Voilà.
Mais, en réalité, il faut savoir que il y a eu des Grands Prix d'Europe avant le Grand Prix d'Europe. Et donc, par le passé, des Grands Prix nationaux ont aussi porté le titre de Grand Prix d'Europe. Et il faut savoir que pour remonter donc au premier Grand Prix à avoir porté le titre de Grand Prix d'Europe, il faut remonter en 1950 et pas à n'importe quelle course. Tout simplement au premier Grand Prix comptant pour le championnat du monde de Formule 1, le fameux Grand Prix de Grande-Bretagne 1950, et donc qui est à la fois Grand Prix de Grande-Bretagne et Grand Prix d'Europe. Et d'ailleurs sur l'espèce d'affiche, pour promouvoir le Grand Prix, c'est marqué Grand Prix d'Europe, incorporating the British Grand Prix. C'est-à-dire qu'à la limite c'était le Grand Prix d'Europe avant d'être le Grand Prix de Grande-Bretagne, même si finalement on a retenu que c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et donc, qui a gagné cette première course? C'est Giuseppe Farina. Donc, qui a gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne et en même temps, le premier Grand Prix d'Europe. Et donc, avons-nous eu des réponses?
Nous en avons eu deux, et comme la dernière fois, parce que alors, comme c'est une question piège, je vais te laisser juger sur la formulation des réponses, Shinji. Donc, première réponse. Pour la question, j'ai trouvé deux réponses possibles. Le pilote gagnant le premier Grand Prix d'Europe, comptant pour le championnat, est Farina, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1950, ou Piquet en 1983. La deuxième réponse, c'est « Et ma réponse serait Piquet en 1983. Seulement, un gros doute m'envahit. En cherchant des infos sur ma question, j'ai également repéré le Grand Prix de Grande-Bretagne et d'Europe 1950, remporté par Giuseppe Farina. Je ne pense pas que tous les auditeurs sont aussi fourbes que Globen, donc je maintiens Piquet en 83.
» Ah,
eh ben oui, ils ont tous su la fourbe.
Voilà, ils ont tous su la
c'est ça, esprit, parce que bon, ils ont il y en a une qui nous donne deux réponses, l'autre personne nous donne une réponse mais quand même nuance en disant qu'il y en a peut-être une deuxième possible. Est-ce qu'on prend les deux ou est-ce qu'on en prend qu'une?
Moi, j'ai envie de prendre les deux parce que même si elle avait un doute, elle a quand même l'a mise parce que elle a dû se dire ouais mais attends, il y a peut-être une chance que ça soit qu'on ait fait un coup de pute. Ce qu'il a été. Ça a été un coup de pute. Donc ouais, moi j'ai envie d'accepter les deux et après de dessiner en fonction de la question.
D'accord. Bah donc du coup, je vais te lire les questions, Shinji, hein, et tu vas choisir. Donc, première question. Sans compter 2011 et depuis le premier championnat du monde de Formule 1, Combien de courses disputées sur le circuit de Silverstone se sont déroulées sous la pluie? Deuxième question.
Réputation anglaise.
C'est clair.
Voilà. Deuxième question. Pour quelle raison Jacques Villeneuve peut-il remercier Mika Häkkinen pour sa victoire lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de 1997?
Ouais, j'ai envie de garder la première. Elle est pas compliquée, faut juste, faut chercher, quoi. C'est
faut
tout.
Bosser.
Ça va être
ouais.
Long. Voilà. C'est, faut bosser, mais elle est pas compliquée, compliquée. Voilà.
Oui. Et puis je trouve que c'est intéressant en le sens où c'est pas commun et que du coup il y a peut-être justement cet aspect
c'est gros cliché, voilà, c'est marrant.
Voilà, cet aspect cliché à justement enlever quoi.
Non, ouais, on va prendre la première.
Et donc félicitations à Zilex qui avait déjà gagné il y a deux grands prix je crois, hein, qui nous a proposé cette question et qui avait donc bien répondu à la question de Steve. La question de Zilex est la suivante: sans compter 2011 et depuis le premier championnat de Formule 1, combien de courses disputées sur le circuit de Silverstone se sont déroulées sous la pluie? Pour nous répondre, vous allez sur le site fanf1.com, rubrique plus, la page de contact en sélectionnant le destinataire SAV de la F1 ou directement sur notre adresse mail savf1@yahoo.fr. Nous vous rappelons que pour que votre réponse soit valide, il faut d'abord bien évidemment répondre à la question et nous poser une question en rapport avec le Grand Prix suivant, c'est-à-dire le Grand Prix suivant après la Grande-Bretagne, ce sera le Grand Prix d'Allemagne. Donc la réponse à la question de Zilex plus une question en rapport avec l'Allemagne, le Grand Prix d'Allemagne en allemand. Choisissez 101 au hasard. Voilà,
on va passer à la prochaine course. Tu as dit, dans deux semaines, on arrive à Silverstone avec sa nouvelle ligne droite.
Ouais.
Et oui.
Et son nouveau premier virage qui va faire mal.
Ouais.
Parce qu'il est, c'est un peu tapu quand même. C'est un petit côté au rouge à plat, mais pas trop à plat.
Bon, on va pas demander à Romain cette raison. Ça serait un petit peu compliqué, je pense.
On pourrait les faire nous, Shinji.
Alors, Dino, est-ce qu'on cherche cette bonne raison ou cette mauvaise raison?
Ah, cette mauvaise.
Cette mauvaise raison. Connais,
moi déjà j'en ai une.
Ou cette bonne raison de ne pas y aller, donc en tout cas cette bonne raison.
Cette bonne raison de ne pas y aller. Mmh. Alors déjà j'en ai une.
Bah moi j'en ai une aussi.
Ah, vas-y je te dis.
Bah si vous adoriez Cops comme premier virage tout simplement.
Oui.
tu viens de le dire.
Moi j'en ai une deuxième, c'est que bon alors déjà c'est très compliqué parce qu'en Angleterre déjà ils roulent pas du même côté que nous, d'accord. Et qu'en plus vous allez voir quand vous allez arriver sur le circuit, les voitures elles roulent une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. C'est vraiment le bordel. Voilà. Donc si déjà vous avez du mal à vous habituer à rouler à l'anglaise, vous allez voir sur le circuit de Silverstone les pilotes font n'importe quoi.
Silverstone c'est aussi deux pistes d'atterrissage décollage, hein. Et que, bah, de toute façon, Weber nous a déjà fait le coup l'an dernier, donc ça sera plus passionnant cette année.
Oui. Et d'ailleurs, quand on s'adresse aux fans, hein, il faut aussi penser que si vous êtes fan de Massa, n'y allez pas, c'est un trop mauvais souvenir pour vous.
J'ai envie de dire aussi, si vous aimez Hamilton, enfin, si vous n'aimez pas Hamilton, bah c'est pareil, n'y allez pas.
Même si...
Oui, donc, c'est vrai, mais bon.
Ça nous en fait quatre.
Puis moi, j'en ai une quand même. C'est ceux qui sont fans, enfin, ou adorateurs des Grands Prix de France. Parce qu'au final, c'est peut-être à chaque fois le petit combat France-Angleterre. Où du coup, il y a un Grand Prix d'Angleterre encore, il n'y a pas de Grand Prix de France.
Donc, c'est vrai.
Nos amis anglais ont leur Grand Prix. Nous, voilà. Les Rosbif ont leur Grand Prix et nous, on n'a pas de Grand Prix, quoi. Donc, juste par jalousie et juste pour garder nos petits sous en France, bah, ne pas y aller.
Et puis je rajouterais même d'ailleurs dans le même domaine, ce sera une sixième raison, c'est que c'est quand même pour le moment le seul truc où on peut pas foutre une branlée aux Anglais.
Hein. Ouais.
C'est sur leur circuit. Voilà. Il y en a pas de pilote français, on n'y peut rien. On peut pas leur
d'autant qu'ils sont autant en campagne que nous quoi dans leur circuit. Hein. Bah le seul avantage qu'ils ont finalement c'est d'avoir Eccleston qui est anglais quoi.
Ça ferait d'ailleurs une très bonne raison pour ne pas y aller. Eccleston est anglais, n'y allez pas. En plus
de façon, j'ai envie de dire il y a plein d'Anglais.
Oui,
voilà.
Et on a même pas parlé du temps. Imaginez le temps.
Oh oui. Et je dirais même plus, si vraiment il y a une raison qui vous a semblé un peu boiteuse, on peut en mettre une huitième petite en bonus. Hein. C'est que celui qui est la tête du BRDC, enfin qui y était ou qui y est plus pour longtemps, c'est Damon Hill, qui s'est reconverti dans la chanson.
Et je suis pas dans la coiffe.
Ça c'est sûr.
Et je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de traverser la Manche pour aller écouter Damon Hill. Mm. Voilà. Surtout que généralement quand il chante, il pleut après donc.
C'est pour ça il chante beaucoup donc.
Voilà. Il chante tous les jours. D'ailleurs quand il vient en Bretagne, ça se voit.
On n'est pas fort comme ça à la volée.
Ouais.
Pop hop. Allez, on va passer au prono.
Oui.
Ah. Donc dans ces belles lignes droites et ces belles courbes rapides, qui je dirais même où.
Moi je dirais un pilote acharté. Parce que de toute façon, eux, ils vont pas bouger, ils ont pas le diffuseur soufflé. Donc ça va rien en refaire.
Non, mais de toute façon, je n'ai pas de doute que Force India seront premiers.
Ouais.
Pas de la course, hein, mais ils seront les premiers à rentrer dans leur usine parce qu'elle est juste à côté de Silverstone.
Oui, en plus, c'est vrai. Elle est de l'autre côté de la rue.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y a toutes les usines des équipes sont pas loin, là.
Ils sont tous à plus ou moins 150 km. Je crois qu'il y a 6 ou 7 usines qui sont à moins de ce
niveau. On appelle un peu la Silicon Valley de la F1. Hein.
Ouais.
Toi, Romain, est-ce que tu as une connerie ou un vrai pronostic? Ah,
non, mais moi je verrais bien justement Massa faire taire ses détracteurs.
Espèce de signe indien.
Ouais.
Sur ce, on va te remercier Romain quand même d'avoir comme ça repris à la volée la place de guest.
Pas tu me diras, en cette période de Wimbledon, reprendre à la volée, c'est fastoche.
Encore des Anglais, oh là là.
Oui.
Hey, il y a encore des Français, hein.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, c'est son gars qui va gagner le Grand Prix.
Ah ouais.
Ouais. On va quand même remercier Ismaner, même si malheureusement, oui. Ça devait être notre guest. Bon, c'est la première fois qu'on a un pépin de guest. Alors, en général, les pépins viennent de nous.
D'ailleurs, je savais même pas que les guests avaient des pépins.
Oui.
Les melons, d'accord, mais non, je savais pas. Bien évidemment, Iceman Air, il y a une place qui t'attend pour ouais. La revanche, parce que on n'a vraiment pas eu le temps de te voir, t'entendre, mais bon, en même temps, t'es peut-être heureux, parce que t'es pas tombé sur le meilleur Grand Prix.
Oui, c'est vrai.
Il y a de voilà, la chance. Mais, vraiment, je me joins au remerciement de Shinji pour toi, Romain, parce que, voilà, on a un petit peu lancé un appel en hurlant, en disant, au secours, on n'a plus personne. On l'aurait fait à deux, mais 5 à 3, c'est un peu plus vivant, et puis c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison, donc autant que ça reste à 3.
Ah, mais du coup, moi, ça m'a fait plaisir d'y participer aussi, parce que c'est vrai que j'y participe pas souvent, et du coup, j'ai un œil neuf sur le sujet.
C'est vraiment le grand intérêt de cette saison, c'est qu'à chaque fois, on a ouais. des regards nouveaux. Alors, on aura quelqu'un de complètement nouveau, dans 15 jours, hein, puisque c'est un auditeur qui est sorti du bois. bien évidemment hein, pour les émissions après le Grand Prix d'Allemagne hein, donc après c'est la Hongrie ouais
puis pour toi, la fin tu vas t'éclater.
Ah oui, moi je vais m'éclater. Bien évidemment hein, il reste des places donc si vous voulez participer hein, c'est savf1@yahoo.fr y compris du côté des rédacteurs hein, vous êtes les bienvenus et puis ce qui serait bien moi, c'est mon petit souhait, j'aimerais bien qu'on accueille une fille d'ici la fin de l'année parce qu'on est entre mecs. Voilà, on fait un peu des blagues entre mecs, mais on sait qu'il y a des filles qui nous écoutent et on aimerait bien mettre à l'honneur une femme qui aime la Formule 1, qui suit la Formule 1 et laisser un peu la parole aux femmes parce qu'elles ont un regard sur la Formule 1 qui est peut-être pas forcément le même que des garçons. Donc ça serait vraiment intéressant d'avoir d'ici la fin de saison une femme une
et comprendre fille. Pourquoi elles aiment la F1. Ah et puis du coup pour revenir sur ce petit recrutement, j'en profite aussi pour faire un appel à ceux qui écoutent qui sont des grands fans de F1 pour dire que les portes de la rédaction de Fan F1 pas seulement du SAV mais aussi de la rédaction des articles et des actualités ou même des chroniques sont ouvertes à ceux qui souhaitent y participer bien sûr. Donc que si jamais parmi vous il y a des personnes motivées, on est à votre écoute.
Surtout
aussi.
Le week-end. Au secours.
Allez, sur ce on vous remercie, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée comme d'habitude suivant à l'heure que vous nous écoutez.
Voir une bonne nuit.
On espère que t'as apprécié nuit. Cette émission, Iceman.
Et à son âme.
Iceman, nous te dédions cette émission.
Ouais. Comme d'habitude, n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sur Fan F1. Et comme d'habitude, on se quitte sur ces quelques mots de poésie.
Je vais vous réciter une petite fable. Mais pas de La Fontaine, c'est une fable d'Antoine de la Motte Houdard, qui s'intitule « Les amis trop d'accord ». C'est un grand agrément que la diversité. Nous sommes bien comme nous sommes. Donnez le même esprit aux hommes. Vous ôtez tout le sel de la société. L'ennui naquit d'un jour de l'uniformité.